Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes oies sauvages, mes vieux sages, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Je suis sur un petit nuage après la dernière date parisienne du spectacle à la Cigale, vendredi. Ça s'est super bien passé. Je m'étais préparée mentalement depuis 3 semaines, en me forçant de temps à autre à couper Instagram, en reprenant des petites gouttes de CBD de la marque Équilibre, en diminuant les plateaux de stand-up pour avoir des soirées off avec des amis. J'ai vu Poor Things au ciné, le dernier film de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone, qui va remporter l'Oscar, j'en suis sûre. Je suis d'ailleurs déçue que Greta Gerwig n'ait pas été nommée comme meilleure réalisatrice pour Barbie, mais tellement heureuse pour toutes les nominations d'Anatomie d'une chute. J'avais adoré le film de Justine Triet. Voilà, j'ai aussi passé du temps avec mes parents, je suis allée au théâtre avec mon père, en tournée à Lyon avec ma mère, j'ai dîné avec des spectatrices incroyables à Madrid. Mickaël aussi s'est bien occupé de moi, on a fait des petits câlins rassurants, j'étais prête. Le jour J, Adrienne était là, Élise, des amis dans la salle, Mélodie, Julie Albertine, Julie qui connaît bien mon invité d'aujourd'hui. Je suis immensément fière de recevoir dans le podcast Océan, artiste total. Après le podcast La Série, aujourd'hui l'autobiographie socio-pornographique Dans la cage. Océan y interroge le lien entre violence sexuelle et fantasme de domination, illustré par son histoire intime. Notre discussion commence par des rires qui accompagnent la lecture de mon poème. Avant de parler du livre d'Océan, sa genèse, la rencontre avec son éditrice Vanessa Springora pour la collection des Fauteuses de troubles, on revient sur sa série France TV Slash et Océan nous explique sa vision du documentaire, la nécessaire mise en scène du réel, l'évolution de la saison 1 à la saison 3, Faire famille. Notre entretien nous mène vers les sujets de la queer appropriation, du fétichisme ou encore du sort qu'on réserve aux chouchoutes. Océan est passionnant. Bonne écoute.
Ah, j'allais le dire. C'est le truc où t'oses pas y aller. Mais, ah non, moi je suis dans ma tête, moi j'avais trouvé là. Ah, je suis bon.
C'était juste un crevard de l'antenne, quoi.
Ah oh, ouais.
Tu sais que j'ai habité, enfin non, tu sais pas. C'est une expression qui n'a aucun sens. Tu sais que. Bah non, j'en sais rien de ta vie. J'ai habité au 11 rue Cardinal.
Non.
Bah oui.
Mais donc, elle est magnifique cette impasse.
Mais j'étais tellement malheureux que.
Ouais. Pourquoi?
C'était une époque où j'étais. C'était horrible. C'était ma mère avait emménagé avec son mec atroce de l'époque et ils habitaient eux dans la rue, donc ils avaient trouvé le studio et moi j'étais avec ma soeur adoptive et c'était un petit studio hyper glauque, hyper sombre, hein, 2 pièces mais vraiment sordide, et j'étais malheureux, donc j'en garde un très mauvais souvenir. Mais à part ça, j'adore venir à la SACD quand même, hein. Le trauma n'est pas non plus, tu vois. Mais quand je suis arrivée tout à l'heure et que c'était impossible, je disais, ah bah tiens, ça m'étonne pas. C'est toujours la galère ici. Voilà, mais donc.
C'est génial, ça, c'est un truc que tu viens de faire, que tu racontes dans ton bouquin. T'as énoncé un fait de dire, voilà, ça m'a déplu, mais je suis quand même très heureux de venir à la SACD, ah ouais. Tu vois, le truc de gentillesse.
Genre de. Non, mais pardon, je ne vais pas m'étendre sur mes traumatismes.
C'est très agréable.
Ah ouais, bon, je sais pas ça, mais ouais. Non, écoute, on essaye d'être supportable comme personne.
Bon, écoute, je vais te lire ton poème.
Ah oui, c'est vrai que j'ai mon poème.
Cher Océan, nous ne nous sommes jamais rencontrés.
C'est vrai.
Mais j'ai beaucoup entendu parler de toi par notre amie commune, Julie Albertine.
Oui.
Océan par-ci, océan par-là, toujours dit avec fierté. Et il y a de quoi. De mon côté, je te connaissais d'abord pour ton podcast génial, La politique des putes, qui m'avait retourné la tête. Énormément sensibilisée aux violences que subissent les travailleurs et travailleuses du sexe. Puis, pour cet enregistrement, j'ai lu ton livre Dans la cage, et je vais me répéter, mais encore une fois, génial. C'est vraiment très, c'est très bien écrit, c'est très agréable à lire. Mais ce n'est pas facile, car le contenu est puissant, profond. Tu interroges nos fantasmes de domination, notre relation au porno et l'imaginaire érotique autour du viol quand on a soi-même été victime d'agression. Le chemin de réappropriation par la sexualité. À chaque fois que je consomme tes œuvres, que je t'écoute, te lis, te regarde, je suis changée. Ta série France TV Slash m'a aussi transformée. C'est tellement plein d'humour. Dans la saison 1, tu documentes ton coming out trans, ton parcours de transition. On a les larmes aux yeux devant ton courage, ta détermination. Puis on rit avec toi quand ta voix mue au début. On est subjugué, effrayé par ta mère. Le spectateur est souvent l'alter ego de ton ami Mika qui pose toutes les questions problématiques. La saison 2 est passionnante, tu élargis et filmes tellement de témoignages poignants, ça donne envie de se révolter, d'être une meilleure alliée. Puis dans la saison 3, Sophie-Marie Larouille et toi vous demandez comment faire famille. C'est plein d'espoir, ça m'a donné envie de réécouter votre épisode de 2018 dans À bientôt de te revoir et découvrir notre aversion commune pour le jazz. En commun, nous avons aussi un idéal d'être humain en la personne de Virginie Despentes et artistiquement, une passion pour le réel. Comment choisis-tu, Océan, de fictionner ta vie ou non, de trier ou pas ce que tu livres? Avec Dans la cage, on va très loin avec toi dans l'intime, tu fais jaillir ce qui semble avoir été longtemps enfoui. Peux-tu nous raconter d'où t'es venue la nécessité d'en parler aujourd'hui? Merci Océan.
Merci pour ce très beau poème, c'est plus qu'un poème. C'est, comment on dit,
c'est un résumé IA.
Ouais, voilà,
c'est pas l'IA qui l'a fait, c'est moi.
En tout cas, si c'est l'IA qui l'a fait,
wow.
Je vais peut-être m'abonner. Merci. Oui, c'est vrai que je passe du réel à la fiction. J'ai un petit peu de mal avec cette... théorie selon laquelle le documentaire ce serait le réel, le vrai. À partir du moment où on pose une caméra ou même un micro, il y a un dispositif, il y a une mise en scène, il y a une écriture en fait. Donc j'ai tendance à m'autoriser la fiction, en tout cas à assumer ouvertement la mise en scène dans le documentaire, parfois même la fiction, ou enfin, je sais pas parfois ce que c'est que la fiction, la remise en scène, disons dans la saison 3 avec Sophie-Marie, il y a des choses qu'on a rejouées. Et comme on est tous les deux acteurs, c'était simple pour nous, mais c'était quand même du réel. C'est des choses qui étaient arrivées ou qui étaient symboliquement arrivées, parce qu'on s'engueule jamais, par exemple. Donc la scène d'engueulade, c'est de l'écriture, parce que c'est aussi comment tu construis des épisodes, une dramaturgie, en fait. Et même dans le documentaire, t'es obligé de construire une dramaturgie. Tu peux pas juste,
Bien sûr.
Poser ta caméra. Et donc, même si cette engueulade, entre guillemets, n'avait pas eu lieu, je pense que toute cette colère ou cette insécurité, en tout cas, qu'on déclenchait l'un chez l'autre, était là. Donc, c'était tout à fait juste et sincère et joyeux aussi et fidèle, en fait, à ce qui pouvait se passer. Donc, c'est vrai que depuis le début, parce que je faisais de la musique avant, j'ai toujours été dans cet endroit qui est entre la fiction et le réel, utiliser ma vie intime, personnelle pour raconter des histoires parce que j'ai découvert cette chose très simple et très banale qui est que plus t'es sincère, plus tu touches des gens parce que on n'est peut-être pas tous si différents que ça au fond, enfin en tout cas tous à quelle échelle on se place. Moi les gens qui disent oui mais c'est une œuvre universelle, non c'est une œuvre de blanc bourgeois.
Moi je ne vois pas les couleurs.
Oui, voilà, ça. Donc toute proportion gardée, je pense quand même qu'en tout cas quand on dit des choses très intimes on peut venir raisonner chez les autres, même s'ils ont un vécu différent. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir que mon livre te parle, puisque j'avais vu que tu faisais un podcast où tu regardes des films porno avec vraiment un espèce de regard totalement genre « Oh là là, ça me fait vraiment aucun effet !» Donc j'ai dit « Ah, peut-être qu'elle va détester le livre, ça ne va pas résonner à cet endroit-là, en tout cas. »
Je me suis dit « Merde, c'est sûr qu'il a dû me prendre pour une bouffonne, parce que... » Après, moi, je suis vite influençable, donc en fait, au moment où en fait, ma relation au porno a beaucoup aussi évolué... en faisant cette émission, postulat de départ jusqu'à la fin, en étant... Mais en fait, par contre, en faisant cette émission, je me suis vraiment rendu compte que le porno féministe inclusif, c'était celui qui m'excitait le moins.
Bien sûr, c'est certain. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse on ait envie d'encourager sa fabrication.
Je trouve ça super.
C'est super.
C'est super. Ouais. Mais c'est les trucs les plus que je pourrais le plus juger moralement, qui peut-être dont les images vont revenir inconsciemment.
Ouais. Évidemment. Bah, c'est un peu ça dont je voulais parler dans mon cas, enfin, notamment ça.
Mais donc, pour revenir sur le documentaire, le rapport à se raconter soi, quand même, entre les saisons 1, 2 et 3, ça commence à évoluer, ça s'est modifié jusqu'au livre, en fait.
Le livre, c'est un projet parallèle, je dirais, parce que c'est un livre auquel je pense depuis très longtemps, où parfois on me dit, ah, tu veux pas faire un bouquin, il y a des éditeurs qui m'avait approché après la saison 1 pour me proposer de faire un livre sur ma transition. J'étais là, mais vraiment, enfin, arrêtez. Alors j'avoue, je vais faire une confidence que je n'ai jamais faite et qui va heurter plein de gens peut-être, mais c'est vrai que les gens qui font des livres, des produits dérivés, alors que ce sont des objets artistiques, un livre c'est quand même une œuvre, mais qui est en fait un produit dérivé de chronique, d'un film, ça me saoule. Alors adapter un livre au cinéma, c'est autre chose, parce que je pense que là il y a des choses qui peuvent surgir, enfin on peut vraiment créer une autre affaire, pardon. Et là Rosa me montre le livre qui est l'adaptation de son podcast. Mais pardon, je savais pas que t'avais parlé, c'était pas visé.
Je te l'ai apporté pour te donner à la fin.
Non, mais après, pourquoi pas,
enfin, autobiographique, ça n'a aucun rapport avec le...
Voilà, mais c'est pas la retranscription des entretiens, on est d'accord.
Non.
Bon, bah voilà.
Et après, coucou Charlotte Pudlowski, ou peut-être...
Non, mais après, je peux comprendre qu'on veuille le faire pour avoir un autre support. Et à la limite, le podcast, pourquoi pas. Mais bon, quand c'est assumé très clairement que c'est des retranscriptions et tout, pourquoi pas. Parce que c'est juste dire, bah, plutôt que de l'écouter, vous allez lire. Bon, comme on fait des livres audio, à la limite, tu vois. Mais c'est vrai que moi, quand on m'a proposé de faire un livre sur ma transition, c'est là, mais j'ai fait un film, en fait, j'ai fait une série. Et pour le coup, je m'attaque à plein de formes différentes. Tu vois, j'ai fait un podcast, un seul. J'aime bien faire un truc nouveau tout le temps. Ce qui est un peu mon... Enfin, si je me tire une balle dans le pied, en fait. Parce que quand tu commences à avoir un savoir-faire, autant...
Les gens veulent que tu déplies.
Bah oui, et puis même en termes de pas de performance, mais de compétences.
Oui, tu
c'est
deviens...
C'est vrai qu'à priori, tu progresses, tu vois. Et moi, j'aime bien faire un documentaire alors que j'en ai jamais fait, un podcast alors que j'en ai jamais fait, un film de fiction alors que j'en ai jamais fait. Bon, maintenant que je commence à avoir... justement, j'avais pas fait de livre. Et donc, voilà, je me disais toujours, non, s'il y a un livre, ça sera celui-là. J'avais envie de parler de cette question-là. Et en même temps, je me dis toujours, je ferai un livre quand je serai vieux. Et puis, peut-être je suis vieux, en fait. C'est peut-être ça qui m'est arrivé. Donc, en tout cas, c'est la rencontre avec Vanessa Springora qui a vraiment déclenché la possibilité d'écrire ce livre. Pour moi, hein, je veux dire, je l'aurais jamais fait... sans elle. En tout cas, à ce moment-là de ma vie, j'aurais sans doute encore attendu beaucoup plus longtemps. Et,
elle est venue vers toi ?
Ça a précipité. On s'est rencontrés, en fait, par une amie. Moi, c'est vrai que j'avais lu le livre d'Ovidie. J'avais vu qu'elle faisait cette collection. J'avais lu un article où tout ce qu'elle disait de ce qu'elle voulait faire dans cette collection résonnait complètement avec moi, cette idée de livre que j'avais dans un coin depuis longtemps. Et donc, assez rapidement, on est tombés d'accord et on avait tous les deux envie de le faire à cet endroit-là. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais oui, non, je dirais que les trois saisons... Bon, pour le coup, c'est vrai que je suis resté à cet endroit, mais j'ai changé un petit peu de format aussi. La saison 2, il y a une expérimentation. Et ça, c'est vrai que Slash, c'est assez génial pour ça, parce que tu peux faire des tentatives, expérimenter, essayer des choses. Tu as plus de liberté que sur des plateformes, je pense, privé, etc. Donc, la saison 2, je suis venu chercher justement la remise en scène du réel, aussi avec des acteurs, mais en impro, avec toutes ces petites scènes en début d'épisode qui sont assez marrantes. Mais pareil, c'est pas qu'elles me sont arrivées exactement comme ça, mais elles me sont plus ou moins arrivées comme ça. Et c'était intéressant de voir ce que les acteurs eux-mêmes inventaient, parce qu'ils allaient encore plus loin que moi. Parce qu'en fait, même s'ils le faisaient un peu pour rigoler...
Ils improvisaient, mais en fait,
ils allaient chercher des trucs qui étaient... Tu vois, qui avait un terreau de réalité, de un moment comment tu sexualises ou comment tu méprises. Enfin, tu vois. Donc, en fait, c'était assez génial parce que le réel qui surgissait de l'impro, pour moi, était encore plus fort que de la fiction où j'aurais pu, moi, tout écrire de mon point de vue, mais sans être capable d'aller à ce point-là dans leur tête. En fait, c'est pas leur tête en tant qu'individu, mais dans l'inconscient collectif et, tu vois, la transphobie, on va dire, à une échelle sociale, quoi. Donc, en fait, c'était assez intéressant de travailler comme ça. Et pour la saison 3, bon, c'est vrai que Sophie Marie, et moi, on est acteurs, on se connaît très très bien. On avait vécu plus ou moins, c'est quand même cette question vraiment, y compris de la maison à la fin, acheter ensemble. Nos amis Michael et Benjamin sont aussi des acteurs, mais eux, ils avaient vraiment, alors pas avec nous, mais avec une autre personne, pensé à à faire un enfant en coparentalité. Donc en fait, même si ça c'était pas le réel, c'est une reconstruction, mais de quelque chose que tout le monde avait finalement traversé,
ressenti,
plus ou moins, ou voilà, fantasmé, désiré parfois, enfin dans leur cas, voilà, ça avait été un vrai projet. Et en fait, ils étaient déjà en procédure d'adoption quand on a tourné, donc ils étaient beaucoup plus avancés que ça dans le projet. Donc voilà, tu vois, bon, t'as un temps très court de tournage, tu rejoues une période longue, alors que sur la saison 1, j'étais dans le temps réel en permanence, puisque évidemment, je filmais pendant un an et demi, tu vois, les changements physiques, tu peux pas les tricher, donc t'es obligé de tourner longtemps, alors que la saison 3, j'ai tourné comme une fiction, donc on a eu 3 semaines de tournage. Donc évidemment, tu rejoues des temps beaucoup plus longs, dans un, voilà. Mais malgré tout, pour moi, c'est du réel, quoi. Et en ce moment, j'ai envie de revenir à la fiction, mais alors peut-être aussi grâce au livre, en m'autorisant justement un travail sur l'imaginaire et sur la violence, etc., que je ne me serais peut-être pas autorisé avant. Mais je creuse un sillon quand même. Enfin, j'ai l'impression que je suis quand même un peu au même endroit depuis le début, entre réel et fiction, avec des moments où je vais plus tirer vers la mise en scène, vers la fiction, et d'autres moments où je vais vraiment, voilà, comme dans le podcast, aller interroger des travailleurs, des travailleuses du sexe, et vraiment justement au contraire permettre aux gens de sortir de leur fantasme sur le travail du sexe pour vraiment entendre le réel.
Ouais.
Et donc, enfin, tu vois, c'est en fonction du projet, je vais être plus ou moins dans un sens ou dans l'autre, mais au fond, j'ai l'impression qu'il y a une cohérence quand même entre tout ce que je fais.
Tout se recoupe, et c'est vrai que il y a à chaque fois de la pédagogie, parce que je pense que c'est même si tu vas au cœur de certains milieux, c'est aussi pour éduquer.
Toujours, ouais.
Et donc c'est vrai qu'on et dans ton livre aussi, tu sais, la qualité d'écriture en fait fait qu'on on y rentre et on lit ça très agréablement. Et donc, ça permet de comprendre les concepts ténus, fins, compliqués que t'expliques. Mais je me dis, entre la saison 1 et la saison 3 du documentaire, la saison 3 peut-être doit apporter plus de sérénité et de bonheur d'avoir cette petite distance que le stress peut-être de tout de suite de mettre en scène son réel, ses relations amoureuses, peut-être que ça devient plus pudique en fait sur certaines choses saison par saison. Tu vois, moi c'est des questionnements dans lesquels je suis aussi en ce moment, vu que je travaille un peu comme toi, toujours en me disant qu'est-ce que je fictionne, qu'est-ce que je raconte tel quel. Parce qu'évidemment en plus... Il y a aussi le risque que ça blesse.
Ouais.
Parfois, le plus, c'est... Tu vois, je ne sais plus, je racontais un truc sur ma mère l'autre jour dans mon podcast, elle l'a mal pris.
Ouais.
Tu vois, où j'ai fait une chronique où je me suis foutu un peu de la gueule de la famille de mon copain sur France Inter. Et, tu vois, parce que je me suis dit, oh, les séfarades, trop bien, je vais pouvoir me foutre de leur gueule et tout, machin.
Qu'est-ce que tu n'as pas fait?
Ouais, c'est pas du
ils
tout passé. Je dis, non, mais vous ne comprenez pas que nous, on adore rire de vous depuis toujours et tout. Et puis, il était, non, mais en fait, c'est raciste. Et je suis mode, non, bon. Mais par exemple, ta mère, elle, quel a été son rapport au fait de se voir de la saison 1 à la saison 3?
Ma mère, elle a au moins cette qualité de jouer le jeu à fond et de ne pas tricher. Et je pense que c'est ça qu'elle, elle pensait ou elle savait qu'elle pourrait apporter aux spectateurs, c'est-à-dire pas faire semblant. Et d'ailleurs, très vite, elle m'a dit, ah non, mais si c'est pour dire, ah bah oui, mais mon chéri, c'est merveilleux, et puis te genrer correctement au bout de 2 secondes, enfin, ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc elle, en tout cas, c'est aussi ce rapport à la vérité, en tout cas, qui est important pour elle. Et pour moi, c'était très bien, parce que je voulais cette porte d'entrée pour les spectateurs. Je savais que beaucoup de gens s'identifieraient à ma mère plus qu'à moi. Ce qui est logique, c'est-à-dire que tu t'identifies beaucoup plus facilement à un parent qui s'inquiète pour son enfant, qui est en train de faire un truc quand même un peu irréversible, un peu radical, et que à quelqu'un qui se sent pas en adéquation avec son genre. Enfin, je veux dire, les personnes trans s'identifient à moi, mais toutes les autres, toutes les personnes cis s'identifient, je pense, plus à ma mère. Et je savais qu'elle bougerait, parce que je faisais confiance à son intelligence. Alors j'étais un petit peu déçu, parce que je pensais qu'elle bougerait plus vite. Donc j'avais imaginé, moi, justement, dans mon dossier d'écriture de la saison 1, une scène finale où elle me dit « Mon fils, moi, sortant de la boxe, extrêmement musclé, barbu,
bon,
pas du tout, tout a un peu raté, les poils, la mer. Bon. » Mais c'est vrai que dans la saison 2, je trouve que ce qu'elle dit est très beau, et là encore très sincère, et on voit le chemin qu'elle a parcouru. Donc pour les gens qui se sont accrochés jusqu'à la saison 2, ils peuvent voir son évolution, puis la retrouver bien bitch dans la saison 3. Enfin, super cash, et tu vois, toujours très cash, quoi, en fait.
Très cash.
Très sincère.
Ouais, et puis même dans la saison 2, ce qu'elle dit, c'est, je sais pas si c'est problématique entre guillemets, mais moi je sens un truc quand elle dit « Là, ça va, t'es mon garçon, t'es beau ». Comme si à un moment...
Ah oui, non, mais elle reste problématique sur plein de sujets.
Mais, et en même temps, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle commence à accepter la masculinité quand elle dit là, c'est bon, là, t'es très beau.
Oui, mais elle dit surtout j'ai compris que c'était à moi de faire mon chemin et pas à toi et que je t'ai mis une charge supplémentaire. Enfin, elle dit des trucs hyper importants pour les parents. Enfin, en fait, moi, mon objectif un peu pervers, c'était que les parents qui n'acceptent pas la transidentité de leur enfant s'identifient à elle, disent « Ah bah oui, hein !» Et puis, du coup, soient aussi coincés avec elle après, puisqu'ils ont fait ce travail, entre guillemets, en tout cas, cette identification. Et donc, quand elle bouge, bah, ça les fait bouger aussi.
Bien sûr.
Donc, c'est ça que j'espérais, en fait. Et ça a un peu marché. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai eu des retours de plein de personnes trans qui m'ont dit « Ah oui, ma mère, regardez. » Et puis, du coup, elle a aussi évolué grâce à ta mère. Enfin, tu vois, parce qu'il y avait cette d'affection pour elle, quoi, et d'identification. Donc, elle a quand même évolué. Après, elle dira toujours des choses problématiques. Dans la saison 3, elle en dit d'autres.
Ouais.
Mais oui, enfin, en tout cas, c'est elle, quoi. Enfin...
Oui, mais c'est très beau. Et en même temps, comme elle est très intelligente, elle ouvre des sujets où, quand justement, en fait, c'est très fort. Elle ouvre même quand elle te dit dans la saison 2, peut-être qu'en fait, c'était là depuis toujours et je ne l'ai pas vu.
Ouais.
Sur la question, finalement, donc de la transidentité enfant qu'elle soulève.
Ouais.
Et ça, c'est là, tu te dis, oui, son intelligence est assez aussi. Folle, quoi.
Ouais, elle est réflexive, elle peut se remettre en question.
Elle travaille sur la matière, ouvre.
Ouais.
On dit, ah oui, tiens, c'est encore, ça sera encore une autre saison, quoi.
Ouais, on pourrait faire que Marum.
ou la transidentité chez les enfants.
Oui, ah bah, ça c'est sûr, on pourrait largement faire toute une saison là-dessus. Et pour l'instant, il n'y a pas eu sans doute assez de choses. Mais donc, après, bah, justement, comme la saison 1, pour répondre à ta question tout à l'heure, comme la saison 1, c'était très à vif sur le moment, sans, pour le coup, sans recul. Et je pense que la force de cette saison, c'est qu'on, pour le coup, on sent la vérité, l'intensité tout le temps, parce que rien n'est mis en scène, en fait, ou à peu près. Alors que la saison 3, on est sur un sujet qui est très encore sensible, mais où il y a une écriture. Et j'ai passé beaucoup plus de temps à l'écrire, aussi avec une productrice différente qui m'a beaucoup, beaucoup fait travailler, poussé à travailler. C'était, je pense, une bonne chose. Bon, la saison 1, de toute façon, je ne voyais pas ce que je pouvais travailler. Enfin, j'allais vivre et traverser cette aventure folle, tu vois.
Ouais.
Mais donc, la saison 2, progressivement, aussi, a été plus écrite. La saison 3, est vraiment avec un choix de mise en scène, une manière de filmer. Enfin, tout d'un coup, j'étais aussi fort de cette expérience des deux premières saisons. Et donc, je pouvais réfléchir à un dispositif. Voilà. Ce que j'ai pas... Enfin, la saison 1, le dispositif, c'est que j'avais mon iPhone sur moi tout le temps et que dès que je voyais qu'il se passait un truc un peu marrant, hop, je le filmais. Donc, j'avais des centaines d'heures de rush.
Mmh.
Et tu vois, mais c'est pas... Enfin, c'est un dispositif imposé presque, tu vois. C'est que, tu vois, tu peux pas tout le temps avoir une caméra qui t'accompagne, etc. Donc, après, j'en ai fait mon parti. Mais à la base, c'était plutôt... bon, je me démerde avec ce que j'ai, quoi. Alors que la saison 3, il y avait vraiment les contraintes de production, de temps de tournage, comment on fait. Moi, je voulais deux caméras justement pour avoir des impros où on est nos raccords. Enfin, tu vois, donc j'ai beaucoup plus préparé, écrit, mais c'était bien et ça a permis aussi une spontanéité, du coup, je trouve, qu'on ressent quand même un naturel qui est là quand même dans les séquences. La séquence
est
chez la, j'allais dire la psy, tu vois, c'est un lapsus, mais parce qu'elle se comporte comme une psy, chez la gynéco en Belgique, on est complètement sur le cul, quoi, parce que justement, elle se comporte comme une psy et moi je m'attendais pas à ça. Moi je m'attendais à faire une séquence en vrai peut-être un peu chiante avec une gynéco qui allait m'expliquer en Belgique comment ça marche, la loi par rapport à la France, enfin un truc un peu technique, tu vois. Et là, la meuf nous rentre dedans sur des questions hyper intimes et que même nous on n'aurait pas osé formuler entre nous. Et en fait, elle joue absolument son propre rôle et elle fait ça avec les gens qui viennent la voir. Mais du coup, la séquence elle prend une. Et moi je l'aime pas en fait, sur le moment elle m'énerve, je la trouve un peu naze, enfin tu vois, je suis en défense parce qu'elle vient me chercher dans un endroit trop intime. Et en fait, du coup, ça fait une super séquence.
Complètement.
Alors que sur le moment, je suis là, mais c'est de la merde, c'est pas ça que je venais chercher, je suis énervé. Mais du coup, elle me fait réagir, quoi. Il y a une vraie émotion qui est là. Et je trouve que ça marche trop bien. Et c'est même, enfin, tu vois,
ouais,
genre débordé par son émotion à elle.
Il y a plein de choses de la saison 3 qu'on retrouve de la saison 1,
oui,
en
voilà.
Fait. Ouais, de toi, parce qu'en saison 2, SML, à un moment, elle se plaint en disant t'es trop parfait ou ton personnage est trop parfait.
Ouais.
Et c'est vrai que peut-être que le rôle d'intervieweur, de donner donner la parole, et ben on se dit waouh, dis donc, il est tellement sympa, généreux, attentif, concerné, alors que dans la saison 3 il y a une plus grande part d'ombre sur tes hésitations, ce que tu veux, ce que tu veux pas, et dans la saison 1, dans ce truc au jour le jour, il y a l'immense sincérité aussi du rapport au corps et au rapport au gras, à la grossophobie intériorisée, au fait que tu veux pas de gras, tu veux pas de gras, et ce qui est hyper touchant, enfin tu vois, ce qui est très courageux.
C'est un peu
craignos, mais courageux.
On peut pas maîtriser tout ce qu'on a internalisé, quoi.
Exactement, et en fait c'est ça rejoint, enfin ensuite le livre où j'y viendrai, mais ça pose aussi les bases de, en fait, ne me jugez pas, parce que en fait il y a une société patriarcale derrière, donc en fait ne nous demandez pas de pas être complexé par la graisse, enfin c'est impossible, enfin peut-être dans 2000 ans, tu vois, mais en attendant, tu vois.
Il y a des gens qui arrivent sans doute mieux que d'autres, mais en tout cas, ça ne nous appartient pas.
Oh, pardon.
Vas-y. On coupera.
C'est horrible, hein.
On coupera le moment du...
Oh mon Dieu, c'est horrible. Mais
ASMR,
sache que
ça... ASMR rhume.
Ça fait beaucoup de bruit.
ASMR morve.
Oh mon Dieu.
Il y a peut-être des gens, c'est leur king, peut-être tu peux les vendre, hein, ces audios.
C'est sûr.
Rosa Bernstein.
Podcast porno, mais sale.
Ah bah c'est sûr. Il y a forcément un king.
C'est sûr.
Tout existe, donc.
J'ai beaucoup développé un fétiche pieds nus, mais je peux Attends, excuse-moi, je me mets...
Non, t'es malade.
Oh, désolée.
On en est tous là, moi aussi, je fais comme moucher.
Ah ouais, bon.
Qui suis-je pour te juger?
Ce matin, mon copain, j'ai fait ça, mais vraiment des trucs, et ça fait à peu près 9 mois qu'on est ensemble.
Ah ouais?
Donc c'était... Mais merci.
Parce que tu quand même... Enfin, j'ai pas vu tout ton travail. J'ai l'impression que tu joues beaucoup l'image de la célibataire éternelle.
Mais j'ai été la célibataire éternelle pendant...
Tu dois tout réécrire.
Ah bah là, il y a un nouveau spectacle. Ah bah là, c'est pour ça que celui-ci s'arrête à la cigale. Qui s'appelle « Hey !» L'hétérosexualité. Non mais ça va, c'est un peu... je sais pas si j'ai déjà dit ça devant Barbara Butch, donc je peux le dire. C'est un peu une lesbienne avec une bite.
Ok, bof. Je crois pas qu'on accepte cette...
Merde. En plus, je crois que je me trouvais genre hyper...
Non, c'est un peu unsafe en fait de dire ça.
Ah
en
merde.
Vrai. Non, je te le dis, moi je m'en fous complètement.
Bon, je couperai.
Du matin au soir. Non, laisse-le, ça fait de la pédagogie.
Okay,
non, parce que en fait, si c'est intéressant de le dire au contraire, parce qu'il y a plein... Moi j'entends souvent cette phrase, et qui est une manière, en fait, encore une fois... pour des hétéras de venir dire que mais moi mon mec il est génial, donc c'est déjà un truc de not all men et de nanani qui est un peu relou, et en plus non, c'est un mec hétéro si ce n'est jamais une lesbienne avec une bite, parce qu'en fait il n'a pas vécu un dixième, un millième de, tu vois, des discriminations systémiques que vivent les lesbiennes, et il n'a pas l'expérience, enfin tu vois,
c'est vrai.
C'est en fait, moi j'ai toujours après une approche matérialiste, hein, tu vois, du genre,
t'as raison, c'est hyper intéressant,
quand bien même il est adorable, gentil, d'où il ne sait pas ce que c'est.
Bien
que
sûr.
cette discrimination-là spécifique.
Évidemment.
Il ne l'a jamais vécu, il n'a jamais eu peur de donner la main à sa copine dans un bar.
Bien sûr.
Parce que des mecs allaient essayer de le baiser. Enfin, tu vois, moi je me suis retrouvé littéralement avec des bites collées au cul, alors je roulais juste une pelle à ma meuf à 11h du soir rue Oberkampf, ce qui a priori normalement, je le vois bien d'ailleurs, ne m'arrive plus. Tu vois, donc... Et donc cette expérience-là et toutes les autres, hein, c'est qu'un exemple, il les a pas vécues, et donc il n'est pas psychiquement construit avec ça. Donc ça n'empêche pas qu'il soit doux et merveilleux, en fait. Hein, je suis pas en train de dire que pour le coup il n'y a pas des hommes cis-hétéros qui sont pas absolument merveilleux, mais en tout cas lesbienne avec une bite, moi j'achète pas. Je suis contre.
Oh merci. Bah je le dirai plus jamais. mais sache que par rapport à, je trouve, plein d'autres nanas, je suis l'une des rares à ne pas faire semblant d'être queer. C'est-à-dire que non, tu vois, il y a vraiment, il y a une telle mode de meufs humoristes ou nous dans le milieu, ou de moi, ou d'activistes qui se revendiquent queer.
Ah, non, ça, c'est
et t'es en mode, mais enfin t'es pas bi, je veux dire, t'as dû bourrer, embrasser des meufs en soirée. Est-ce que t'as eu une histoire d'amour avec une nana? Enfin c'est pas, et elles cachent le fait qu'elles relationnent ou qu'elles sont seulement en couple avec des hommes pour pas, parce qu'elles ont honte de l'étiquette hétéro. Ah, ça, moi, c'est un truc que j'ai jamais fait. Ah bah, me fout tout le temps de la gueule des hétéros, d'en être une caricature. mais donc, ça, c'est vrai que je trouve ça toujours hyper, hyper faux cul. Mais comment tu dénonces ça? Parce que, c'est, en fait, c'est oui, bah, elle joue sur un truc de mode et bon. Ouais. Après, c'est pas malveillant, mais par contre, c'est malhonnête.
Ouais, c'est malhonnête. Et puis, c'est encore une fois, c'est penser que la queerness n'est qu'un état d'esprit alors que c'est une réalité matérielle.
Clairement.
Donc, c'est un peu un problème quand même.
Ouais.
Mais bon, après, on peut dire même chez les queers, entre guillemets, y a des gens parfois qui sont énervants parce qu'en fait, ils sont dans une telle situation de privilège. Enfin, de toute façon, qu'est-ce qu'être queer ? C'est un débat éternel qui déchire la communauté depuis toujours. Et moi, j'ai complètement lâché. Je n'aime pas non plus faire la police du queer. Donc,
ouais.
Tu vois, à un moment, bon. Mais c'est vrai que quand t'es blanc, bourgeois, valide, mince, que tu vois que tu réussis dans tes études et que... Et que tout va bien, c'est pas parce que t'es un peu bi que t'es queer. Enfin, je sais
clairement.
Pas. Si, je peux, en tout cas, bon, encore une fois, chacun dit ce qu'il veut, mais je pense qu'on peut aussi vider sa substance
de
ce que c'est que la queerness. Et en tout cas, de sa dimension politique, c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que c'est, tu sais, le capitalisme se réapproprie tout, donc il se réapproprie tous les concepts et il se réapproprie aussi la queerness. Donc à un moment, ça devient un marché. Aujourd'hui, c'est un marché, la queerness. Tu
évidemment.
Vois, les séries queer, c'est un marché. Enfin, c'est ça la magie du capitalisme, je peux dire. tu vois, c'est qu'à un moment, tout est avalé. Donc. Ça devient performatif, ça devient une posture, alors que au départ, c'est quand même, encore une fois, un être au monde qui va avec une discrimination et voilà. Bon, et après, en même temps, comme je te le dis, moi, si tu veux, la frange hyper radicale des queers qui te font la liste de c'est quoi un bon queer, qu'est-ce que c'est qu'un vrai queer et que si t'es pas si ci et ça, t'as pas autant de discrimination. Bon, ça fait chier aussi, c'est pas très intéressant. Donc, je dis pas ça pour justement.
Oui, la pureté militante.
Ouais, la pureté militante, moi. C'est bon, j'ai compris les limites aussi, tu vois. Moi, dans ce cas-là, je suis le pire de tous.
Oui,
je suis un bourge, j'ai un passing.
T'es blanc.
Je suis blanc,
ouais,
tu vois.
T'es beau.
Tu vois, ouais. Enfin, je m'en sors, j'ai du réseau. Enfin, par rapport à plein d'autres queer, des, entre guillemets, plus vrais queer que moi, je suis juste un bourgeois, finalement. Et je comprends, enfin, c'est OK, moi, qu'on me renvoie ça. Bon, après...
C'est du rail.
J'ai quand même cette
expérience... Tu donnes beaucoup la parole.
Mais je fais des trucs, après, à mon échelle. Hein, donc, c'est pour ça. Il faut ni trop se la raconter et penser que...
Ni trop s'excuser.
Ni trop s'excuser. Parce qu'à un moment,
non, sinon,
tu ne vis plus. Voilà.
Ouais.
Après, quand t'es hétéro dans ta vie, quand bien même t'as un imaginaire, tu vois... plus complexe, ou que t'as en effet eu des aventures, ou que t'as baisé un peu vite fait avec des meufs quand t'es une meuf, je trouve dire que t'es queer quand t'es taureau, c'est un peu abusé quand même.
De ouf. Non, mais moi je trouve ça
hyper... c'est ma limite. Je dirais que c'est ça ma petite limite.
Mais grave.
Tu vois.
Mais c'est
parce
mensonge,
que
c'est du mensonge.
Tu te fais les cheveux verts et que tu te laisses pousser les poils. Bon, t'es peut-être féministe, ou je sais pas, ça suffit, c'est bien déjà.
Ouais, c'est bien.
Pourquoi vous l'arrêtez queer ?
Accepte-t-elle ? Mais non, mais bien sûr. Ah ouais, non, moi aussi je suis très très mal à l'aise avec ça. Et non, moi j'ai jamais essayé de m'incruster sur des plateaux de stand-up queer, tu vois.
Bah oui.
Je le suis pas, enfin, tu vois, je veux dire, et c'est bon, enfin, laisser la place.
Je crois que ça va.
Je crois qu'il y a besoin de que cette place soit occupée.
Ouais.
Non, ça c'est vrai que c'est cringe.
C'est cringe, on peut dire, on peut entendre ce mot-là. Il est encore un peu à la mode, je sais pas.
Je sais pas.
Est-ce qu'on. Est-ce qu'on plus jeune que moi, tu
vois. Oh là, non, enfin, pas dans ma tête, je t'assure.
Moi, je suis déjà un peu vieux, tu sais, des fois, je peux employer des mots, ils sont déjà ringards et je crois que c'est cool, tu sais, c'est vraiment le propre du vieux, c'est quand il croit qu'il dit des mots cool et en fait,
moi, je vois les mots cool passer, mais je les dis pas parce que je me dis, je vais les dire trop en retard et ça sera déjà. J'ai jamais dit encre dans le doute, tu vois. Je me dis, ça vient d'arriver, ça va repartir, on sait pas. Je laisse.
Je ne le connais que depuis 15 jours, mais ça ne veut rien dire. Il est peut-être déjà très vieux, le mot.
Je n'ai pas saisi le incre.
Donc le cringe, bon, on n'a qu'à dire que c'est la dernière
cringe,
fois.
Cringe, allez, on jette cringe. Mais en tout cas, ton livre, Dans la cage, est-ce qu'il dépasse la question queer ? Est-ce que...
Oui. Il est beaucoup plus... Enfin, pour moi, c'est plus un livre qui s'adresse aux femmes, en tout cas. Et comme je le dis, les personnes sexisées, je reprends ce terme de Juliette Drouard que j'aime beaucoup parce qu'il est plus juste pour moi.
Plus inclusif.
Parce que, voilà, il est plus inclusif. Et pour parler de moi et de mon groupe, s'il y en a un, pour moi, mon groupe, c'est les personnes sexisées. C'est pas les hommes, c'est pas les femmes. Donc, c'est pas que les trans non plus. Parce que mon expérience, et surtout tout ce que je raconte dans le livre, c'est vraiment une expérience de jeune fille. Donc... Et encore une fois, c'était la réalité. Tu vois, c'est pas ce truc de dire... oui, alors bien sûr, il faut genrer les personnes trans dans leur genre revendiqué, y compris au passé, etc. C'était un vrai sujet pour moi de qu'est-ce que je fais avec ça. Puisque moi-même, je me genre au masculin. Je ne demande pas de pronom neutre. Ou, tu vois, je n'utilise pas l'écriture inclusive pour moi-même. Mais quand là, je parlais du passé, c'était délicat parce que j'étais pas à l'aise pour me genrer au féminin non plus. En parlant de moi enfant, et en même temps c'est tellement ce que je voulais raconter, c'était tellement une expérience stéréotypique de personnes assignées filles que je pouvais pas non plus me genrer au masculin. Tu vois, la lecture, c'était, ça faisait un truc chelou, donc j'ai choisi, et je l'explique d'ailleurs brièvement, mais que je vais utiliser l'écriture inclusive pour ce livre là particulièrement, pour parler de moi au passé, ce qui permet de, pour moi, montrer le féminin qui n'est plus, tu vois ce que je veux dire, il y a un truc presque, et en fait les éditrices de Julliard, pas Vanessa, mais les éditrices de Julliard m'ont demandé un moment, parce qu'elles aimaient pas trop les points E et tout ça, l'écriture inclusive traditionnelle, elles m'ont proposé une autre écriture inclusive qu'elles avaient utilisée, enfin qu'un autre auteur avait utilisé, qui est vraiment une personne, enfin qui elle est une personne non binaire, et qui était très poétique, avec, tu sais, des lettres un petit peu, un truc graphique hyper beau et tout. Et j'étais là, j'ai regardé le truc, j'étais là, bah non, enfin... En fait, je ne me revendique pas non-binaire, ce n'est pas un livre sur la non-binarité, ça n'a pas de sens. Moi, au contraire, je veux marquer le féminin passé, et du coup, quand je parle de moi au présent, je me genre en masculin. Donc, et pourquoi je te disais ça? Oui, parce que du
c'est
coup...
C'est hyper intéressant.
Non, mais en tout cas, c'était un vrai sujet.
Ouais,
tu vois,
oui,
c'était
le point de départ, comment raconter le passé. Ouais,
comment tu te... Voilà. Et du coup, encore une fois, j'ai une approche assez, assez matérialiste, c'est-à-dire que quand bien même... Et d'ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure, ma mère aurait pu percevoir des signes de ma transidentité, peut-être enfant, et peut-être que j'étais déjà un enfant trans. C'est fort possible. Et en même temps, j'ai vécu une vie de fille.
Bien sûr.
Donc, j'ai été une fille. J'ai été une fille et une femme. Parce que là, j'ai vécu cette vie-là. Alors, j'ai été une femme lesbienne, j'ai été... Voilà, mais pour moi, je ne peux pas nier cette expérience-là, avec sa particularité, en effet, qui était que peut-être, en effet, il y avait déjà un homme trans qui était là, qui attendait de sortir, mais je ne le savais pas moi-même, parce que je n'avais pas la possibilité de le penser. Parce qu'il n'y avait pas de représentation, il n'y avait pas moi un homme trans, je ne savais pas ce que c'était à 20 ans. C'est aussi pour ça que j'ai fait ma série, tout bêtement, c'est de me dire, putain, j'aurais vu ça à 17 ans, franchement... Tu vois, j'aurais sans doute transitionné beaucoup plus jeune. C'est fort possible, en tout cas, tu vois. Mais j'avais pas. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de ressources. Il n'y a pas que moi, évidemment. Mais je sais aussi que ça a aidé, parce que c'est les retours que j'ai eu, plein de jeunes, à se dire « Oh, oh,
c'est ce que je suis. »
Tu vois, genre,
et oui, si,
et c'est cool.
Ouais,
tu vois.
C'est génial. Dans le livre, c'est tout nouveau. C'est qu'en fait, donc même quand tu sais... Donc, tu pressens que t'es lesbienne, mais même tu... pressant une transidentité dans le fait de regarder les corps d'hommes et qui d'apprécier la beauté non pas par désir mais par volonté de l'acquérir.
Ouais, par désir mimétique. Ouais. Et donc le livre, il parle de cette expérience là, et pour moi cet imaginaire sexuel, c'est vraiment quelque chose de la fille-femme que j'ai été et qui n'a pas changé avec ma transition. Et d'ailleurs, je le dis bien, c'est mon expérience, parce qu'il y a plein de personnes trans autour de moi qui ont un imaginaire sexuel qui a évolué, qui s'est modifié avec leur transition. Moi, pas du tout. C'est-à-dire que ce qui s'est fixé, c'est ça qui m'intéressait de raconter, c'est ce qui s'est fixé. Et à partir du moment où je considère que ces fantasmes-là dont je parle... qui sont une catégorie spécifique de fantasmes, qui ne sont pas les fantasmes qui sont en continuum avec notre désir, mais les fantasmes qui viennent réparer le trauma. Ceux-là, en fait, ben justement parce qu'ils viennent réparer un trauma éternel, entre guillemets, ils n'évoluent pas. Et donc, il n'y a aucune modification de cet imaginaire-là parce que je transitionne. Il y a peut-être une circulation dans l'identification qui se fait différemment, ou des nouvelles craintes qui arrivent, en effet, avec toute cette histoire d'identification à l'agresseur dont je parle, parce que mon corps change et tout ça. Mais ça, c'est plus une crainte réelle, c'est pas le fantasme lui-même. Donc, en fait, c'est un livre de femmes, étrangement. Enfin, tu vois, c'est un livre de femmes, d'hommes trans. En fait, c'est un livre de personnes sexisées, exactement. C'est-à-dire que je pense qu'il peut tout à fait... Enfin, je sais qu'il parle à plein de meufs trans aussi, parce que... c'est toujours important de rappeler que, parce que quand moi je dis j'étais une femme, etc., ça peut parfois servir un discours transphobe, un discours TERF, qui, elle, inverse en miroir ce discours-là sur les trajectoires de femmes trans, en disant, elles ont été assignées hommes, ce sont des hommes et ce sera toujours des hommes, ou des hommes déguisés en femmes, etc. Alors que ce qui est intéressant, c'est de non pas mettre en miroir les trajectoires des hommes et des femmes trans, c'est au contraire de voir les points communs qui sont justement la violence du sexisme qu'elles subissent. Parce qu'en fait, une femme trans... en général, même si à un moment de sa vie, elle a performé la masculinité, même de manière excessive, comme moi, j'ai pu performer la féminité de manière excessive pour essayer en fait, de faire ce qu'on nous demandait. Malgré tout, souvent, presque toujours, il y a quelque chose qui est déjà là. Et la plupart des femmes trans étaient avant des garçons efféminés, gays parfois, ou en tout cas avec quelque chose du féminin qui était déjà là. Et donc, on subit les violences qui vont avec le marqueur du féminin. C'est pour ça que le terme de personne sexisée, il est pour moi plus intéressant. Enfin, en tout cas, il permet de... Ça n'empêche pas d'utiliser le mot femme, évidemment, parce qu'il y a des fois où on parle des femmes. Mais bon, après, c'est toujours pareil, c'est de quelle femme on parle, qui on inclut, etc. Bon, disons, ce terme-là fait que tu parles juste des gens qui ont subi, en fait, les violences liées au marqueur du féminin. Et c'est pour ça qu'on peut parler de transmisogynie, de transmasque-phobie, d'homophobie, de lesbophobie. C'est intéressant de venir étudier les discriminations spécifiques qui s'appliquent à des personnes, voilà, des groupes de personnes particuliers. Mais en fait, l'homophobie, la transphobie, la transmisogynie, c'est le sexisme. Mmh. Et c'est ça notre point commun. Mmh. Et c'est ça notre point commun qui ne bougera jamais. C'est-à-dire que toi et une meuf trans, quand bien même elle a vécu garçon jusqu'à ses mêmes 50 ans, parce qu'elle peut transitionner qu'à 50 ans, en fait, un jour, vous êtes pris une remarque, ou vous êtes fait agresser, ou vous n'avez pas été écouté parce que vous aviez ce marqueur du féminin. Tu vois ? Et moi, sûr. Et avec toi, même si j'ai maintenant une barbe énorme, et vraiment, je peux à peine rentrer dans une pièce tellement je suis poilu. Non, c'est pour rire, c'est que je dis toujours ça parce que j'ai vraiment pas de poils. Mais c'est cool, hein, j'adore ma toute petite barbe d'adolescent éternel, ça me rajeunit. Quel que soit mon passing et quelle que soit la vie, même si on se retrouve dans 20 ans, on aura une expérience commune.
Bien sûr. On aura
un tronc commun. Voilà. Et après, évidemment, il y aura la misogynie noire va être différente. Nous, on n'a jamais vécu de racisme. Mes copains trans noirs vont, comme on le voit dans la saison 2, vivre des discriminations très spécifiques que nous, on ne vivra jamais. Évidemment, ou une personne en fauteuil. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On peut, évidemment, mais il y a quand même ce tronc commun qui est le sexisme, quoi, le patriarcat. Tu vois.
Complètement. Alors, justement, tu vas me dire si ce que je vais dire est être problématique ou pas. C'est chez les...
La terreur.
Non, mais c'est donc chez les juifs, tu as des antisémites et tu as des philosémites. C'est-à-dire, justement, je faisais un podcast avec Marie de Brouwer et elle disait « Ouais, j'adore les juifs, est-ce que ça te dérange si je vous fétichise ?» J'étais en mode « Bon, alors pas du tout, vous êtes tellement peu nombreux, fétichisez-nous, je t'en supplie. » Et c'est vrai que j'ai l'impression, mais peut-être que c'est mal, d'avoir toujours été un peu attirée par les gays et reconnaissante. Et quand les gens disent « Les gens font ce qu'ils veulent sans tendresse », moi, ça me heurte un peu parce que j'aime les trans, mais parce que je suis reconnaissante. Parce que justement, ce serait être aveugle de ne pas voir que les luttes LGBT, les luttes des lesbiennes ont servi le féminisme,
oui,
qu'il
sûr.
Faut dire merci. Parce que la PMA, tout ça, si c'est, je veux dire, si c'est pas les lesbiennes, les gays, je veux dire, et donc en fait, pour moi, quand je vois ta série, quand je lis tes œuvres, je ressens de la reconnaissance, de l'amour, parce que je me dis, mais moi, mon droit de femme, la possibilité de congeler mes ovocytes, c'est grâce aux luttes des trans. C'est parce que c'est une telle ouverture au monde, c'est-à-dire que ça force tellement les gens à dire « Regardez, en fait, ce que nature ne veut rien dire. » Enfin, voilà. Et moi, c'est tout le vocabulaire, le discours, quand j'essaie de sensibiliser les gens à la congélation d'ovocytes et qu'ils sont là « Mais ouais, mais ensuite, Daniel, c'est les théories de l'escalade, et ben alors on peut tout faire. » Je dis « Non, mais en fait, c'est... mais tu vois, ensuite, et ben alors ensuite, tu vas pouvoir choisir que ton enfant... » Tu vois, ce truc de, voilà, comme quand il y a eu le mariage gay, ben on va pouvoir se marier avec son hamster. Et donc, mais en fait, justement, c'est l'exemple que je prends quand je dis quand les gens essayent de grossir le trait. Je dis, mais, et donc, je vois pas comment tu peux juste, sur les questions trans, être indifférent. Donc, les gens font ce qu'ils... juste, en fait, intéresse-toi et dis merci. Parce qu'en fait, le regard, il ouvre sur l'humanité, en fait, sur notre humanité. Et c'est pas problématique de dire ça ?
En fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que ce discours-là de chacun fait bien ce qu'il veut, souvent la fin de la phrase en vrai c'est mais tant que ils sont discrets, c'est-à-dire moi j'ai aussi, tu vois, beaucoup entendu ça, donc avec t'as quand même souvent une queue de phrase qui est un peu plus crayeuse.
Oui, mais
que,
nous cassez pas les couilles.
Voilà, mais nous faites pas trop chier. Donc en fait, en gros, la gay pride, quand on s'appelait encore la gay pride, mais j'emploie ce terme exprès, même si aujourd'hui on dit la pride, mais parce que c'était des gays qui venaient habillés en cuir, ou avec, à moitié à poil, etc. Ça les dérangeait. Et je l'ai entendu, mais d'ailleurs je l'ai entendu à l'époque, je me souviens très bien, d'un humoriste à France Inter, hein, que je ne citerai pas. Donc tu vois, chez des gens qui sont dans notre milieu, dans notre monde, qui sont censés être woke, déconstruits, tu vois.
Tu parles.
Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire, c'est par contre, vous ne vous montrez pas. Et en fait, dire chacun fait ce qu'il veut, c'est en effet une manière de détourner le regard. Et surtout de pas, au-delà de la, disons, de l'intérêt personnel à s'intéresser à ces trajectoires-là, mais ça c'est presque un jugement moral sur est-ce qu'il faut s'intéresser aux autres ou pas. Bon, vaste débat, bon, nous, je pense toi et moi, on est d'accord sur le fait que oui, mais il y a des gens, ils s'intéressent pas aux autres, bon ok. Par contre, ceux qui disent ça en mode « je suis cool », en fait c'est très pervers, parce que ne pas s'intéresser aux discriminations que vivent les gens, quand bien même on te demande pas de t'identifier ou de trouver des ponts, tu vois, des affinités, mais de pas s'intéresser aux discriminations que vivent les gens, et donc à la logique de leurs revendications et de leur nécessité d'aller dans la rue ou de, voilà, de s'organiser, en fait, tu tombes dans l'homophobie ou la transphobie. Parce que du coup, en effet, tu viens dire, bon, faites ce que vous voulez, mais ne nous faites pas chier, en gros. Nous faites pas chier, ça veut dire...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Je ne veux pas voir tout ce que vous vivez, je ne veux pas voir toutes les violences que vous vivez, et donc, bah, tu vois. Donc, ouais, en fait, il y a toujours ce fond-là.
Reste à ta place, ne prenez pas de place.
Voilà, ne prenez pas de place et ne venez pas. Voilà.
Ouais. Donc, voler notre place.
Il y a toujours un fond comme ça, un peu, tu vois, de peur, en
bien
fait.
Sûr.
Tu vois, de territoire, en fait.
Ouais, c'est clair. C'est la crainte, la peur des.
Après, sur la question du fétichisme, qui est une question aussi hyper intéressante, qui a été beaucoup travaillée, hein. Mais. Il y a deux choses, c'est-à-dire dire j'ai un a priori positif et je pense que les luttes des personnes trans, etc., sont importantes. C'est une chose et c'est très bien. Par contre,
vouloir
fétichiser,
coucher avec une personne trans, bah, juste pour.
Même ça fait débat. Je dirais même, moi, je vois quand j'en parle, alors pas forcément publiquement, donc là, ce que je suis en train de faire, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut aussi dire. Moi, j'ai des potes qui disent, mais très bien, fétichisez-nous, hein, parce qu'en fait, on galère tellement. Tu vois, non, mais c'est vrai, tu vas sur Tinder, t'es un mec trans, franchement, c'est chaud, enfin, franchement, tu te prends des râteaux de ouf. Donc en fait, il y a des fois où enfin, moi je comprends, et même des personnes grosses qui disent ça aussi, genre bah non, mais franchement, c'est bon, fétichisez-nous, parce que en fait.
Comme ça
bon,
on ken.
Voilà, comme ça on ken. Et en même temps, avec toute cette limite de quand t'es vraiment très. Enfin, quand tu tombes sur des vrais fétichistes, ce qui est quand même vraiment quelque chose de particulier, c'est méga anxiogène, parce
bien
que
sûr.
Du coup, t'es remplaçable, t'es un objet, en fait, t'es objectifié, c'est-à-dire t'es juste une grosse, ou juste une noire, ou juste une trans. Donc là, ça devient, pour le coup, méga cringe.
Ouais.
Et angoisse. Et je pense que fétichiser, si on pousse le truc, enfin voilà, fétichiser en vrai, c'est nier la singularité de chacun et l'identité de chacun. Et moi d'ailleurs, je fétichise pas ma commu. Il y a des personnes trans méchantes, malveillantes, mauvaises. Il y a des PD ignobles, il y a des Gwyn ignobles. Enfin, tu vois, et bon, je me permets de dire Gwyn parce que je suis aussi encore Gwyn. J'ai mon passé de Gwyn qui m'autorise à le dire, hein, je précise. Mais je veux dire, évidemment, on est des humains. Et d'ailleurs, tant mieux qu'on puisse dire ça. C'est-à-dire, justement, de pas. Commencer à généraliser, parce que c'est ça le problème, dès que tu généralises, que ce soit sur les juifs
devient,
ou les trans, c'est pareil, c'est, les juifs sont comme ça, les trans sont comme
ci.
Bon, là,
ça devient de, comme le racisme à un moment où les noirs n'avaient que des rôles de gentils.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire, c'est toujours.
Ne pas avoir toute l'étendue du. Bah, bien sûr.
Et donc, vouloir à tout prix être avec un trans ou un juif, peu importe, bon, c'est quand même c'est un problème. C'est un problème pour toutes les personnes. Voilà. Mais après, d'avoir un a priori positif, parce qu'en fait, tu sais que ces personnes... Je sais pas comment dire. Par exemple, je dis un truc peut-être, pareil, qu'on pourrait dire problématique, je sais pas. Mais moi, quand je croise une personne noire, je suis plus souriant. Mais pas parce que je me dis, ah, gentil, non, c'est peut-être un connard, peut-être une connasse, c'est pas ça. C'est juste que je sais que cette personne va plus se prendre des regards agressifs, va se faire bousculer. Enfin, donc moi, je fais plus attention, enfin, noire ou racisée, ou, enfin, tu vois, ou grosse, peu importe. C'est genre, les personnes dont je sais qu'elles vivent des discriminations, je fais plus gaffe. Tu vois? Et je dis pas ça pour dire que je suis super, c'est juste pour dire, oui, je prends en compte ce que vivent les personnes, même si en plus je ne peux pas connaître toute l'étendue de ce qu'elles vivent, mais en tout cas, j'ai un a priori où je suis plus attentif à ma manière d'être. Mais peut-être que je vais croiser un homme blanc, cis, riche, mais qui s'est fait violer toute son enfance par son grand-père. Donc en fait, évidemment que, tu vois, et peut-être lui, je ferai moins attention à lui parce que je ne percevrai pas ça. Donc après, tu vois, c'est pas pour nier la complexité des trajectoires individuelles, mais en tout cas...
Dans l'espace public.
Voilà, dans l'espace public, dans des rencontres comme ça, tu peux faire attention. Parce que tu sais que la personne, sa journée, a priori, il y a plus de galères que... Enfin, la mienne, ça dépend, mais en tout cas, voilà. Et avec les meufs trans, évidemment, pour moi, c'est évident de prendre soin, en fait, de prendre soin de personnes qui, tu sais, sont maltraitées par la société. Donc ça, c'est une chose. Mais après, évidemment, que dès que ça devient individuel ou quand ça devient un truc sexuel, bon, là, la question, elle devient un petit peu plus complexe. Et en même temps, je comprends aussi les copains et copaines qui disent « Ouais, bah, vas-y, fétichisez-nous, parce qu'on veut aussi du sexe, quoi, tu vois.
Ouais. »
On veut aussi, tu vois, à un moment que des gens nous disent qu'on est beau, belle et sexy quand on se fait cracher à la gueule toute la journée, quoi. Mais bon, moi j'avoue, les fétichistes, ça me fait plus surflipper. Enfin, tu vois, je trouve ça un peu anxiogène.
Non, bien sûr.
T'es déshumanisé en fait. Ouais,
mais bien sûr. Non, et quand je dis à ma copine Marie, oui, fétichisez-nous, c'était un peu comme ça, en philosophique, ça m'est arrivé d'avoir des commentaires sur les réseaux sociaux de vrais fétichistes, en mode une femme, Julie. Là, ouais. Dit, ah, c'est dégueulasse.
Ouais, ouais,
enfin,
ouais.
D'un coup, il y avait un truc qui était
ouais.
répugnant, quoi.
Ouais, ouais.
Donc c'est plus dans l'idée. Et pour revenir au livre. C'est fou que ce soit Vanessa Springora ton éditrice, parce qu'au final, justement, au cœur du livre, il y a la question du consentement.
Ouais.
Puisque c'est des abus sur une jeune femme à l'époque.
Ouais.
Et il y en a plusieurs, mais il y en a un particulièrement à l'adolescence, au moment où tu fais de l'équitation. Et ça doit être pas facile à écrire ou à raconter, parce que c'est hyper juste. Et ce qu'il y a de très beau, c'est que c'est pas pathos ni dramatisé. C'est très factuel. Et donc, on ne pleure pas, on se voit. Je ne sais pas comment on se voit. Ça, j'ai ressenti un peu ça récemment avec un film dont j'ai beaucoup parlé, c'est How to Have Sex. Et où, en fait, il y a une zone grise parce que elle est vierge et donc elle va dans ses festivals, dans ses soirées et en fait elle veut, mais pas de cette manière-là.
Bah oui.
Enfin, tu vois. Et donc, sauf qu'elle et elle est majeure, mais elle ne sait pas comment dire non ou même si elle a dit oui, elle aurait voulu que ce soit autrement.
Ouais, bien sûr.
Et donc, en fait, mais c'est pas. Le viol, comment dire, évidemment, qui au final est assez rare dans
très
la vie
rare,
de
jeune. Ouais.
Mais et donc ces récits-là sont hyper importants parce que c'est ce qui nous, c'est les récits en fait pour les personnes sexisées. En effet, quand tu les lis, il y a un effet où tu revois toute ta vie avec ce que j'ai encaissé comme pas cool. Et tu dis est-ce qu'on a tous, tu vois, dans quelle mesure là, ça peut nous permettre de faire le film de notre existence.
Et c'est marrant parce que c'est le retour qui me revient le plus de lectrice, hein, parce que c'est surtout les meufs qui lisent. C'est ça, c'est dire, putain, en fait, ça m'a fait repenser à ma vie et j'ai revu des choses et en fait, qui n'étaient pas du tout OK et j'ai compris que c'était pas OK, en fait. Et ce que ça m'avait peut-être plus impacté, en tout cas que ça m'avait forcément impacté à un endroit, tu vois, même si je suis pas forcément traumatisée. Mais ça me fait plaisir. Enfin, ça me fait plaisir, je suis désolée, parce que du coup, ça fait sûrement des moments pas très agréables pour les personnes. Mais je pense que c'est important de comprendre ce qu'on a vécu et pourquoi aussi on a vécu ça et pourquoi on nous a appris à accepter de vivre ça, surtout, c'est ça. Et donc, comment ça peut nous impacter encore aujourd'hui à un certain endroit, quoi. Donc oui, je pense. En fait, si tu veux, c'était pas dur à écrire, justement parce que j'ai, c'est un peu ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, une relation complètement froide et distante avec ces événements, parce que je les ai mis à distance, en fait. Je les ai tout de suite mis à distance et je ne me suis jamais dit sur le moment, je souffre. Et comme il n'y avait pas de violence physique, puisque en effet, c'était pas des viols, j'ai pas été pénétrée, contre mon gré, etc. Donc... c'était des trucs qui m'arrivaient où je pensais que j'avais un peu voulu être là, mais en même temps, en fait, pas du tout. Quand j'y repense, c'est sûr que non. Pas comme ça, en fait, comme tu le dis, hein, en parlant de ce film. C'est-à-dire, tu cherches... Enfin, c'est un peu... Voilà, c'est vraiment Ferengi. C'est tu cherches l'amour et la reconnaissance, la validation. Et tu te prends une grosse langue dans la bouche et une main au cul que t'as pas... Enfin, en fait, c'est pas ça que tu voulais, quoi. Voir... pire parfois. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est comment on arrive à soi-même penser que c'est OK et qu'on a voulu être là. Comment, en fait, toutes nos barrières n'ont pas été construites comme elles auraient dû l'être. Et j'espère et je pense qu'aujourd'hui, les gens, avec tout ce qui, tu vois, ce qui se dit et ce qui se travaille, je pense vraiment que les gens de notre génération éduquent leurs filles, enfin, et leurs garçons aussi, très différemment, avec la possibilité de dire non. Avec la mais c'est même pas juste de dire non, c'est la possibilité de penser,
de comprendre
son
que tu
propre
veux pas...
consentement. Ouais. Parce que c'est en fait si tu sais pas que t'es éventuellement pas à l'aise avec la situation, parce qu'elle est tellement évidente, on t'a toujours dit que c'était ça que tu voulais, que c'était comme ça, et que c'était super, et que donc, enfin, tu vois, le brainwash il est fort en fait.
Très fort, très fort. Donc, mais nous on est foutus, ouais, c'est bien sûr. Et ça c'est vrai que donc tu racontes que à l'adolescence, ce qui est le regard des hommes blancs, le regard d'un, c'est ça qu'il faut chercher.
Bah bien sûr, mais on m'a appris depuis mes 3 ans, je pense. Enfin, tu vois, c'est ça que je raconte quand je parle du complexe d'Oedipe, parce que je pense que chaque milieu a ses spécificités de comment en fait tu fais rentrer dans le crâne, tu vois que c'est super de en fait de se retrouver dans une situation craignose, tu vois. Bon, dans ma famille qui était plutôt voilà bourgeoise de gauche, intello, très marquée par la psychanalyse, bon, c'était le complexe d'Oedipe, en veux-tu en voilà, quoi, tu vois. C'est, tu vois, et donc en fait c'est con, ça a l'air d'un truc con, mais cette banalisation, parce que franchement c'est ce que Freud a énoncé, quand même plus complexe que ce qu'on en a fait. C'est intéressant de se dire, tiens, c'est justement ce concept là parmi tous ceux qu'il a développé, parce qu'il est quand même bien, il a dit que, tu vois, une littérature assez prolixe, mais il a laissé beaucoup de concepts derrière lui. Mais c'est celui-là qui a été le plus popularisé, comme par hasard, et déformé. Parce qu'en fait, ça sert le patriarcat. C'est-à-dire dire aux petites filles, oh bah oui, mais ça c'est parce que t'es amoureuse de ton papa, ouais, elle est amoureuse de son papa, oh oui, mais de toute façon, elle cherche le regard des hommes, parce que c'est son complexe d'Oedipe. Enfin, moi, mais même nous, on le disait, comme je dis avec ma sœur, entre nous, tu vois. C'est que t'as. Du coup, c'est une norme. En fait, c'est posé comme une norme. Une norme que toutes les petites filles, en fait, seraient un peu amoureuses des vieux gars. Ce qui est ouf, en fait, tu vois. Et au lieu de... Et en plus, ce qui est encore plus fou et pervers, c'est de venir faire comprendre à cette petite fille que ce serait elle qui a un problème, puisqu'en fait, elle est quand même encore dans son complexe d'Oedipe à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, tu vois. Et
alors que... La culture du viol, c'est la culture de la pédophilie, quoi.
Ouais, c'est ça. Et alors que ça devrait être... Tiens, c'est quand même bizarre, tous ces mecs qui ont envie de baiser des mineurs. Je sais pas, c'est... Enfin, on va le dire simplement, pardon d'être cash, mais c'est ça. Enfin, c'est eux qu'on devrait regarder, genre, putain, tu devrais peut-être aller chez le psy, t'as un gros souci quand même. Enfin, tu vois, quand... Tu vois ce que je dis quand je repense à ce prof de philo, quand... Enfin, j'ai son âge aujourd'hui, mais je sais pas comment le dire, même pas en rêve. Et je dis ça, et c'est vraiment pas... Là, je te dis, sans aucune morale, sans aucune éthique, pas pour faire le mec bien. En vrai de vrai, au fond de moi, appeler une meuf de 17 piges, 18 piges, même si elle est plus mûre que tout ce que tu veux, qu'elle a tout vécu, qu'elle est vachement... Enfin, tu vois, tout le narratif que les hommes peuvent se raconter. Et, ben, même si elle est d'une maturité incroyable, d'une beauté je sais pas quoi, et que... Mais jamais j'appelle une meuf tous les soirs pour la convaincre, en plus, parce que clairement, elle a pas envie de coucher avec moi, la convaincre qu'elle a envie de coucher avec moi. C'est ouf. Enfin, je sais pas, c'est ouf. Tu vois ce que je veux dire?
C'est,
tu vois, au-delà du fait que moralement je trouve ça répréhensible, je trouve ça tellement pas excitant. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? J'ai tellement pas envie de ken une meuf de 18 ans qui a pas trop. Enfin, je sais pas, tout est dégueu, tu vois
c'est
ce que je veux dire?
C'est dégueulasse.
Tout est un peu genre. Tu vois, pourquoi ce désir-là, il est chelou? Je sais pas, tu vois. Mais parce que justement, je suis une personne sexisée, je pense, et que comme j'ai vécu de l'autre côté, ça me vient pas. Alors qu'il y a plein de gars qui trouvent ça trop cool, tu vois, de se taper des meufs jeunes.
Bah, on est, même si elle a 17, 18 ans, enfin, ça, il y a un truc de pédophile. Enfin, si elle a différence d'âge, le truc, tant qu'elle est. Alors, elle est majeure sexuellement, mais il y a le côté dominer un cerveau jeune, quoi.
Bah, c'est ça. Non, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose de psychique plus que physique, en fait. Même s'ils disent, oui, mais elles ont les seins et la peau et machin, oui, ok. Mais, enfin, bon, je trouve pas que ça suffise pour vraiment créer une excitation profonde, sexuelle, tu vois, c'est. Enfin, ou alors t'es vraiment complètement pédo, quoi. Mais c'est quand même l'écrasement, en fait.
Ouais.
Je pense c'est quand même la domination, c'est le pouvoir, quoi. C'est sentir le pouvoir que t'as. Et d'ailleurs, je pense que ce qui l'excitait le plus, en vrai, parce que c'était quand même, voilà, un intello aussi, un prof de philo, je pense que c'était de me turner, en fait, qui l'excitait. C'était de prendre le pouvoir psychiquement sur moi, qui était quand même intelligent, rebelle, tu vois, qui avait de l'esprit, qui était armé. Et je pense de venir m'asservir, en fait, et de me convaincre de vraiment prendre le pouvoir, je pense que c'était ça, plus que vraiment de me baiser. J'arrive même pas à y croire complètement. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense pas que c'était si physique. Sinon, tu passes pas des heures au téléphone, tu vois.
Comme si c'était le mélange de ta naïveté et de ton insolence qui l'aurait excité.
Ouais, c'est ça. C'était ah tiens, un adversaire.
Ouais.
Tiens,
il ne sait pas. Ouais. En fait, il est encore jeune, donc il y a matière à convaincre. Et en même temps, il a en lui une grande aspiration que je vais venir écraser.
Ouais, c'est ça. Donc
c'est un autre chapitre du livre, donc avec un autre récit d'abus après l'équitation avec un prof de philo quand t'es en terminale.
Ouais.
Et donc ces chapitres-là donc nous montrent bien à la fois l'horreur, mais l'horreur tout à fait réaliste et banale.
Oui, c'est pour ça ce que je dis, c'était pas dur à écrire parce que pour moi c'est pas quelque chose de douloureux. D'y repenser ne me fait pas souffrir, de le vivre ne m'a même pas fait souffrir. En fait, sur le moment, je ne me suis pas dit ah mon Dieu, j'étais pas à l'aise, j'étais gênée, j'étais pas bien, mais je ne m'en rendais pas compte. Tu vois, c'était même pas monté vraiment au cerveau. J'ai tout gardé inconsciemment, et c'est seulement par la suite quand je découvre en effet que j'ai des fantasmes, que notamment avec ce prof d'équitation qui est très fort, et qu'en fait quand je viens reconvoquer ces souvenirs et que je me refais une histoire qui va encore plus loin, etc., c'est hyper excitant pour moi. Je me dis tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois, comment lui il est encore là, qu'est-ce qu'il fait à traîner dans mon inconscient, tu vois, alors que a priori je m'en fous, je suis pas traumatisé, tu vois. Et donc je suis obligé de faire le constat que peut-être il y a un traumatisme en fait, mais que je sais pas comment dire, qui n'a aucune réalité émotionnelle. Donc c'est que par le fantasme sexuel que je comprends à quel point en fait il y a quelque chose d'important qui s'est joué. Tu vois, que j'ai sous-estimé en fait peut-être toute ma vie, enfin très longtemps en tout cas. Et du coup c'est intéressant. Enfin en fait c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je dis c'est pas un livre MeToo. C'est pas un livre où Océan vient nous raconter les trucs. Bon, je les raconte, mais en fait je les raconte presque de manière chirurgicale, analytique, essayer de comprendre tiens qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué. Et en fait ça ne m'intéresse de les raconter que pour parler ensuite de la question des fantasmes. C'est ça vraiment, moi, mon sujet. Donc après, je pense que c'est quand même intéressant, parce qu'en effet, ça permet de réfléchir. Il y a une personne qui m'a interviewé dans une librairie qui m'a dit un truc très juste sur le concept de la chouchoute, dont je parle justement avec ce prof de philo. Et elle disait, mais c'est fou, comme moi, je me suis souvenu du coup que j'avais été la chouchoute, et à quel point c'était valorisé. Même tes parents allaient dire, ah, t'es la chouchoute, c'est bien et tout. Ben non, en fait, la chouchoute, c'est toujours un peu chelou, quoi. C'est quoi la chouchoute? Enfin, tu vois, quand c'est un vieux man, tu vois, et qui te fait des moments particuliers où il prend du temps avec toi. Et elle me disait, moi, il m'emmenait boire des chocolats. Enfin, tu vois, c'est-à-dire toujours flirter avec la limite de ce qui est acceptable. Tu vois, c'est-à-dire, il t'a pas fait boire de l'alcool, mais quand même, il t'a emmené boire des chocolats. Pourquoi un prof va aller boire des chocolats avec une élève de terminale? Tu vois, je veux dire, c'est quand même... Parce que c'est sa chouchoute. Ah, bon, oh, et hop, fin de... Tu sais, genre, le cerveau s'éteint.
Et puis, c'est toujours de la faute de la chouchoute. Parce que si tu racontes ça, on te dira, mais toi, est-ce qu'au fond, tu voulais pas être la chouchoute de ton papa? Et comme t'as pas réussi à être la chouchoute de ton papa, t'as voulu être la chouchoute des profs. Donc, c'est toujours faute.
C'est toujours de ta faute, de toute façon. Et puis, de toute façon, t'as été dans le café et t'as bu le chocolat. Hein,
tu l'as bu le chocolat. Tu l'as bu ou pas le chocolat?
Et si c'est pas une attitude de petite pute, ça?
Tu portais une jupe en faisant le chocolat. Bon, voilà. Et ces chapitres sont essentiels, en effet. Parce que sans ces chapitres, on n'a pas le développement jusqu'à la question du fantasme, parce que c'est un sujet tabou que tu abordes, c'est hyper courageux, le fantasme du viol.
Ouais.
Et ça, c'est vrai que c'est génial, parce que, en plus, toi qui es une figure militante, politique, tu pourrais ne pas faire ça, parler à tes amis et garder ça, mais tu dis non, je fais ça, je pose ça là, tu vois, tu te mouilles, pour que toutes les personnes comme moi qui peuvent ressentir de la honte, en fait, quand elles sont excitées par ces images-là, comprennent d'où elles viennent et pourquoi, en fait, ça reste un fantasme. Et ça, je trouve ça hyper courageux, en fait, hyper généreux.
Ouais, bah merci. Bah en fait, courageux, bon, j'ai eu des petits frissons à des moments, tu vois, à me dire, bon, comment ça va être perçu. Mais après, je pense que le livre m'a aussi permis, justement, d'articuler très clairement et sans ambiguïté, justement... En fait, c'est presque même un outil pour moi pour contrer les discours masculinistes qui viennent dire « Non mais vous voyez bien, vous fantasmez là-dessus, c'est qu'en fait, au fond, vous avez tout envie de vous faire violer, etc. » Qui est un discours très, très classique, très banal des masculins. Et qui, en fait, vient nous mettre mal à l'aise parce que, justement, c'est pas forcément... enfin, trop comment y répondre, où on fait genre, mais non, pas du tout, hein, alors qu'en fait, on sait très bien que si, ces fantasmes, en fait, ils sont là. Donc, quelque part, ça vient toucher un endroit que, voilà, où ça nous met un peu en... Voilà. Et donc, moi, je voulais donner un outil pour répondre à ça. Et ce que j'ai peut-être pas dit de manière aussi claire que maintenant, que, voilà, que j'en parle, etc., que je fais beaucoup de rencontres avec le livre, mais maintenant, ce que je dis, qui me semble être vraiment le plus simple et le plus juste et le plus facile à utiliser, c'est de dire... Comme par hasard, on manque de vocabulaire à cet endroit-là. Alors que la langue française est si riche, tu vois, elle est, on a tellement de mots, de synonymes pour à peu près tous les concepts. Et étrangement, comme par hasard, sur le fantasme, il n'y a qu'un mot. Mmh. Alors qu'en fait, à mon avis, il faudrait deux mots distincts, voire même trois, parce que si on parle des phobies d'impulsion, on peut en parler après. C'est-à-dire que le mot fantasme, il est insuffisant. Parce qu'en fait, le mot fantasme, au départ, il désigne des désirs qu'on a et qu'on n'ose pas ou qu'on n'a pas pu encore passer à l'acte. C'est-à-dire, ce que je dis, moi, mes premiers fantasmes, d'ailleurs, sont vraiment des fantasmes au sens traditionnel, au sens numéro un, je dirais, qui est j'ose pas vivre mon homosexualité, je suis attiré à l'époque par des filles et j'ai peur, donc je fantasme sur ma meilleure amie, je fantasme, voilà. Comme, voilà, t'es hétéro, tu fantasmes sur un mec, mais en fait, t'oses pas l'approcher, nanana. Bon, le fantasme de base, qui peut devenir par la suite ce qu'on nous raconte dans toute la presse féminine de votre fantasme de faire un plan à trois, votre fantasme de baiser avec un inconnu dans le train, etc. Qui peut en effet être un vrai fantasme qu'on ne passe pas à l'acte parce que socialement, c'est jugé répréhensible ou qu'on a un peu peur ou que voilà. Bon, ça, ok, ça c'est un mot. Mais en fait, après, moi, les fantasmes dont je parle, ce sont d'autres fantasmes. Et donc, en fait, il faudrait qu'il y ait presque un autre mot que je n'ai, qui n'existe pas, qui sont en fait des fantasmes qui ont une fonction de réparation et qui, eux, viennent répondre à l'angoisse. C'est-à-dire, on est exposé aux violences patriarcales, qu'on les ait vécues directement ou indirectement. À un moment, en fait, je me suis aussi, ce qui m'a donné la force d'écrire le livre, c'est de me rendre compte que je connaissais des gens, des femmes, qui n'avaient pas été, qui n'avaient pas vécu elles-mêmes directement de situations vraiment craignos, même un peu craignos comme moi, mais en fait, qui avaient ces mêmes fantasmes. Parce qu'en fait, la menace que ça arrive, on la ressent tous. Enfin, c'est-à-dire, c'est impossible d'y échapper. Le regard des adultes sur toi, enfant, il y en a toujours un moment qui est un peu chelou. Il se passe des trucs, ça peut être dans la rue, ça peut être dans ta famille, ça peut être à l'école, ça peut être... Mais en fait, c'est là. Donc en fait, et ça met une pression très forte sur les épaules. Donc en fait, le viol ou l'inceste ou la menace du viol et de l'inceste, elle est... Enfin, c'est ce qu'on appelle la culture du viol et de l'inceste. Donc on est dans cette culture, donc cette angoisse-là, elle existe. Et ces fantasmes répondent à cette angoisse. Donc en fait, c'est des fantasmes qui viennent permettre au cerveau, sur le moment, de reprendre le pouvoir. Ah, j'ai peur que d'être violée, donc je vais m'imaginer dans un gangbang contre mon gré, nanani. Ah, on m'a appris que les hommes noirs étaient des agresseurs sexuels. Ah, bah, je vais fantasmer sur un homme noir qui... Enfin, tu vois, c'est traversé par le sexisme, mais aussi par toutes les autres discriminations aussi, les rapports de force, tu vois. Donc... Et c'est ça qui fait que le porno, du coup, nous influence dans notre imaginaire aussi. Mais parce que le porno est à l'image de la société. C'est-à-dire que tout... Alors après, t'as des kings très particuliers, tu peux retrouver des sous-groupes, tu vois, spécifiques. Mais globalement, c'est quand même une mise en scène de...
Cathartique.
Et donc, en fait, cet attrait pour le porno, alors même qu'il va à l'encontre de nos valeurs, et alors même que ce qui est représenté est à l'opposé de nos pratiques sexuelles à nous, qui sont... plus
consenti.
Que tout, voilà, où c'est ça notre obsession numéro un, je dirais, c'est quand même le consentement, le bien-être, etc. Et bien, ces fantasmes-là permettent de libérer une angoisse. Et au moment où on regarde le film, du fait qu'on se dit c'est un film, donc il y a un cadre, on peut arrêter quand on veut, enfin, tu vois, on peut se raconter, enfin, notre cerveau en tout cas peut se raconter qu'il a le contrôle. Et c'est vrai que tu décides d'ouvrir cette fenêtre, tu vois, en navigation privée, qui va regarder un porno ou pas, tu décides de ce que tu vas regarder. Donc, tu as une sensation de contrôle, même si évidemment les conditions de fabrication sont déplorables. Encore une fois, là, je suis pas dans la question morale, éthique, etc., qu'on peut discuter aussi. Mais que ce soit en regardant du porno ou en fantasmant, en fait, tout d'un coup, là, le fantasme, il a une fonction, et il a une fonction importante. C'est pour ça que quand les gens me disent « Oui, mais du coup, est-ce qu'il faut rééduquer aussi notre inconscient ? Est-ce que vous pensez qu'on devrait s'imprégner d'autres images, ce qui ne sont pas dans la domination, etc. ?» Comme le propose justement le porno queer, féministe, éthique, ou le post-porn, ce qu'on appelle le mouvement post-porn, où il y a des gens qui vont peut-être faire l'amour dans la nature, ou sans génitalité, etc. Moi, je trouve ça super que tous ces films existent, que, voilà, qu'on puisse s'intéresser ou justement chercher un imaginaire autre, mais je ne crois pas que ce soit si important, et je me demande même si ce n'est pas quelque chose qu'il faut au contraire accepter, faire la paix avec, parce que reconnaître la fonction thérapeutique et reconnaître que, en fait, tant que cette violence elle est là dans notre société, je ne vois pas très bien comment on va y échapper. Donc en fait, il me semble plus intéressant, plutôt que de vouloir à tout prix sortir de cet imaginaire violent, etc., au contraire dire, ok, ça c'est à cet endroit-là, j'ai le droit,
ça, place.
Ça fait chier, c'est pas cool, et ce qui se raconte dans ces fantasmes ou dans ces pornos ne sont pas des trucs chouettes, mais en fait j'ai besoin de les traverser, parce que c'est comme ça en fait, je suis construit avec mon histoire, avec cette violence, avec cette culture autour de moi, et je dois bien la gérer le truc à un moment, enfin traiter l'information.
Mais c'est pour ça que Virginie Despentes, c'est un génie. Elle avait au début, donc en 2017, il y a MeToo, et puis justement il y avait le... Donc elle était interrogée, je me demande, c'est dans Les couilles sur la table par Victoire Toyon, qui parle de qu'est-ce qu'on fait de Tarantino et de Kechiche, etc., et de ses images. Elle dit, mais il ne faut pas interdire ces images, il faut plus de Kechichettes et de Tarantinettes. C'est vrai que moi qui adore le cinéma de Tarantino, et notamment l'esthétique de la violence et les pulsions de vengeance, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Mais le fait est que j'en ai besoin.
Mais la catharsis, ça a toujours existé. Enfin, tu vois, c'est
depuis la Grèce antique.
Tu vois, c'est les jeux. Donc le cinéma est là pour ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le film d'horreur ou le film porno ne sont pas si éloignés. La comédie n'est pas si éloignée. Moi, c'est ça le chemin que je fais en ce moment. De me dire, ah oui, en fait, c'est logique d'avoir envie d'écrire un film de genre, comme c'est le cas en ce moment, en venant de la comédie, tu vois, comme Jordan Peele, finalement, qui vient de la comédie. Et en fait, c'est évident. Maintenant, ça me semble évident, mais j'ai mis tout ce temps à le comprendre. Parce que c'est... T'es face à une situation qui t'angoisse, que ce soit le racisme, la transphobie, peu importe, la violence, quoi, disons. Et soit tu fais des blagues, parce qu'en fait...
tu désamorces.
Voilà, tu désamorces, et puis en fait, tu tires le trait, tu ridiculises pour reprendre le pouvoir sur l'agresseur, etc. Soit tu vas encore plus loin, au premier degré, mais ce qui est aussi une mise à distance, en fait. Et faire une bête monstrueuse, un alien, ou un tueur en série qui va découper tout le monde, ou un espèce de bouffon, tu vois, qui va être très ridicule, et qui va se prendre des râteaux. C'est pas si éloigné, en fait. Et donc, la fiction aussi a cette fonction-là très importante. Donc, la fiction, en effet, le cinéma ou l'imaginaire, ou le livre, ou voilà. Donc, je pense qu'au contraire, pour le coup, moi, je cherche dans ma vie réelle à sortir de la domination autant que possible. Bon, évidemment, ma place dans la société fait que je domine forcément d'autres gens, que je le veuille ou non. Dès que j'achète un truc, de toute façon, pas mal de trucs qui ont été fabriqués, que ce soit de la nourriture ou des fringues, dans des conditions qui écrasent des gens. Mais disons, dans mes rapports interpersonnels, évidemment que c'est au cœur de mes préoccupations, le consentement, sortir de la domination. Mais dans l'imaginaire, justement, je dirais presque, pour pouvoir bien séparer les deux, je laisse beaucoup de place à cet imaginaire-là, et parce qu'il ne blesse personne, en fait,
bien
tout
sûr.
Simplement. Et donc voilà, et donc ces fantasmes-là, je dirais, il faudrait presque les renommer et rappeler qu'ils ont une fonction, en fait, de réponse, de traitement de la violence. Et donc quand les gens, si des gens viennent vous dire, ah ben tu vois bien qu'en fait au fond t'aimes ça ou tu voudrais que, tu peux répondre, ben non, parce qu'en fait ces fantasmes-là, c'est en fait aussi des fantasmes entre guillemets de victime. C'est ça, être une victime, c'est devoir encore se cogner la charge mentale, on pourrait dire, sexuelle, inconsciente, etc., de traiter encore cette violence. Et c'est justement, j'ai ces fantasmes parce que je m'en prends dans la gueule, parce que je suis exposé à ces violences, parce qu'il y a une potentialité de cette violence permanente qui fait que je n'ai plus d'autre choix que de l'érotiser à un moment pour reprendre le pouvoir, pour la supporter. Donc, et ce ne sont pas les mêmes fantasmes que les trucs que je voudrais réaliser et que j'ose pas faire parce que peut-être j'ai un peu peur ou j'ai un peu honte. C'est autre chose. Tu vois, et je dis pas que c'est simple, et y a une ligne qui est très fine, parce que ces fantasmes-là peuvent être tellement puissants, et c'est ce que je raconte dans le livre à un moment, que quand je découvre ce fantasme, où je rejoue cette scène avec ce prof d'équitation, c'est tellement fort, mais je veux dire dans termes d'excitation sexuelle, qu'à un moment je me dis, il faut que j'y aille, en fait je veux le revoir, il faut que je baise avec lui et tout ça. Et bon, assez rapidement je me dis bof, tu vois, je pense
pas du tout,
et il est, a priori, si j'avais déconné, que je m'étais, en tout cas j'avais cru vraiment que c'était ça, je pense qu'une fois devant lui, il y a peu de chances que j'ai eu envie de lui sucer la bite, quoi. J'aurais plus envie de l'égorger ou d'appeler, tu vois, de porter plainte, je sais pas. Bon, mais je peux pas deviner. Mais en tout cas, il est bon. C'est clairement de l'imaginaire, quoi.
Bien sûr.
Et donc, mais parfois, il y a des choses qui sont à la frontière et qu'on se dit ah, quand même, ça peut-être je pourrais le faire. Et d'ailleurs, il y a chacune est différent et différente. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, je dis un exemple à la con. Il y a des gens, ils fantasment de faire des gangbangs, des partouzes. Bon, bah, il y a des gens qui vont le faire et qui vont aller dans des partouzes ou des clubs échangistes, par exemple, et d'autres. Pas du tout, et ou même s'ils s'y retrouvent, ça va tout couper. Et en fait, tout ce qu'ils imaginaient de ces scènes de baise avec des inconnus machin qui est très excitante dans leur tête, une fois sur place, c'est cata. Tu vois Jean-Mich, tu vois, avec son pantalon blanc, il veut juste rentrer chez toi. Ouais. Tu vois, donc en fait, je dis pas que parfois il faut passer, et c'est là que, encore une fois, le consentement doit être au cœur de toute relation sexuelle, parce que tu peux aussi penser sincèrement que tu vas être très excité d'une pratique, et en fait, une fois que tu es devant la réalité de cette pratique ou de cette rencontre, réaliser qu'en fait, pas du tout. Et ouais. Donc, pouvoir toujours dire non et pouvoir toujours changer d'avis. Et que l'autre en face puisse l'entendre.
Quoi. C'est génial aussi ce que tu écris sur le BDSM.
Oui, c'est un peu la suite de cette conversation. C'est de dire, voilà, aussi revaloriser le BDSM, sortir des clichés du SM. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je raconte là, ça s'applique complètement à Fifty Shades of Grey. C'est-à-dire, c'est comment utiliser des pratiques qui sont en fait faites pour être imaginées. Et venir dire aux femmes, particulièrement, parce que c'est quand même surtout des lectrices, ah mais vous voyez, c'est ce que vous voulez. Et en fait, donc en gros, ben, de ce que j'ai cru comprendre, hein, parce que je ne l'ai pas lu, j'ai pas encore écouté tout le podcast
de Julie,
mais je vais le faire, c'est quand même une situation d'abus qui est décrite. Et avec un gros PN, un gros pervers narcissique, voilà, qui profite, voilà. Et donc, même le succès du livre est très intéressant pour moi. C'est-à-dire que, pour moi, le succès du livre, il est tout à fait logique, puisque oui, c'est ça l'imaginaire dont on a besoin, parce qu'en fait, c'est ça qui nous angoisse et qu'en fait, c'est ça qui nous arrive. Donc, il faut l'érotiser et se dire qu'en fait, ça serait dans un cadre avec un mec riche, beau et je sais pas quoi. Mais en fait, on ne veut surtout pas que ce livre soit mis en pratique.
Ouais.
Et donc, le patriarcal a encore rien à dire. Ah bah regardez, vous adorez cette histoire. En fait, vous voyez bien que c'est ça que vous voulez.
Vous mettez quatre pattes, tu vois, vous faites le cul.
Et c'est là où s'il y avait deux mots différents. Ouais. Pour fantasme, celui qui parle du désir et celui qui parle du traitement, tu vois, de la violence, ça simplifierait. Enfin, tu vois, pour les gens aussi, tu vois, ça permettrait de se penser différemment. Et donc, le BDSM en réalité est une pratique très intéressante parce que justement, il y a eu cette compréhension très tôt dans les milieux BDSM de cette remise en scène, revisite du trauma. C'est-à-dire, je pense que c'est le milieu qui avait le plus d'avance sur ce sujet et depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que moi qui critique beaucoup l'hétérosexualité, ben, finalement, le milieu du BDSM hétéro a été le premier à parler du consentement bien avant MeToo, bien avant. Enfin, je veux dire, c'est au cœur des pratiques BDSM, c'est de demander ce que veut l'autre, avoir un safe word, ce qui est quand même pas rien. Enfin, si tout le monde avait un petit safe word, tu vois, je veux dire, dans n'importe quelle sexualité, ça se passerait mieux, si il était respecté. Donc, en fait, il y a une intelligence de la sexualité, en fait, je trouve. Ce qui veut pas dire qu'on doit tous faire du BDSM. Mais en fait, ce que moi j'ai découvert aussi en discutant avant d'écrire le livre et tout ça avec mes copains, copines qui faisaient du BDSM, c'est quand je disais j'invente des histoires, je raconte des histoires, c'est bizarre parce que je suis dans des pratiques très soft, très douces et en même temps je raconte des horreurs. Ils me disent mais ça c'est déjà du BDSM. J'ai dit, ah bon, je fais du BDSM moi. Alors que j'avais l'image, tu vois, du truc où tu es forcément pendu.
Il serrait le cou, tirer un peu les cheveux, c'est déjà du BDSM.
Oui, en fait, tu vois.
Bon,
et en fait, et en tout cas, mettre de la distance, remettre en scène, raconter quelque chose qui est différent de ce qui se joue, c'est-à-dire c'est comme si tu mettais en 3D tout d'un coup quelque chose qui pourrait être que en 2D. Oui, c'est sûr que c'est déjà du BDSM, et d'autant plus quand il y a une revisite, en effet, d'un trauma, que ce soit un trauma collectif ou personnel. Et c'était important pour moi de... c'est pas encore une fois pour convaincre les gens de changer de pratique. Enfin, franchement, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus génial que les gens qui font du sexe vanille, donc, tu vois, sans...
Si ça leur convient.
S'ils sont hyper épanouis dedans, c'est mortel. Enfin, moi, je préférais plein de fois faire du sexe vanille si c'était épanouissant, si ça me suffisait. C'est bon, presque un rêve, c'est un life goal. Enfin, tu vois, je me dis, putain, les gens, ils sont sereins, quoi, pour vraiment faire du... Enfin, si tu fais du sexe vanille en toute sincérité, bon, moi, j'ai du mal un peu à y croire, mais je pense qu'il y a quand même des portes fermées.
Totalement épargné.
Mais je sais pas si c'est possible, en fait. Moi, je pense... Alors, je veux pas juger les gens, donc peut-être, mais peut-être aussi qu'il y a des portes qui veulent pas être ouvertes parce que ça fait trop flipper.
C'est le cas de le dire.
Donc, mais donc, encore une fois, c'est pas pour dire il y a une bonne sexualité, une mauvaise sexualité, pas du tout. c'est juste dire, sortez de vos stéréotypes sur le BDSM, sortez de ce truc où vous caricaturez et dévalorisez le BDSM avec toujours des images qu'on voit dans les films, toujours
oui,
les mêmes,
moqueuse.
Tu vois, genre, j'ouvre la porte, et l'avocat, tu vois, ou le juge, machin, est à quatre pattes en train de se faire fouetter. Bon, déjà, grand bien lui fasse, si ça le fait kiffer, pourquoi pas. Et par ailleurs, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser un petit peu plus à ça, et je parle de ça, à ça, de la complexité de ce qui se joue en réalité et qui peut être en fait une manière presque ouais de c'est comme une thérapie presque en fait je pense le BDSM et qui est encore une fois une réponse à la violence de notre société qui est réelle. Donc et c'est vrai que les gens qui critiquent beaucoup le BDSM, qui se moquent, en fait quand même c'est souvent des gens qui ont des sexualités, t'es là genre bon ben bof en fait, enfin tu vois c'est le mec qui est là
qui
en fait fait pas du tout gaffe au consentement forcément,
ouais.
Qui va dire à sa femme ah j'ai envie de baiser, bon ouais. Ah, quand même écoute j'ai des besoins, et qui va après dire ah regarde l'autre qui se prend tu vois un gode dans le cul, je sais pas quoi, donc là
moi j'ai pu me moquer du BDSM à un moment par ignorance, ouais. En me disant ouais c'est un truc, c'est bien un truc de blanc, je disais tu verras jamais des juifs ou des noirs qui aiment être tenus en laisse ou qui fétichisent,
c'est
et c'est faux,
faux. Ah bah c'est très faux.
Tu as l'air de le savoir.
non mais j'avais vu un film vachement bien dans un festival, un porn festival de court métrage à Berlin, et il y avait justement un film hyper fort sur un mec noir qui donc demandait une mise en scène à une meuf blanche de domination, où il était en fait dans une situation d'esclave qui devait la servir, etc. Et en fait, mais c'est tout à fait logique, c'est que évidemment qu'il porte ce trauma-là, et il porte le trauma de toute l'histoire des noirs et de voilà et de cette domination blanche, et donc c'est tout à fait logique que ils viennent rejouer ça justement dans un cadre safe, dans un cadre consenti, parce qu'en fait il vient se débarrasser de son angoisse, enfin en tout cas il vient traiter son angoisse encore une fois. Et on m'a raconté des histoires sur les juifs, je peux même pas les raconter ici, tu vois, enfin tu vois le fétiche du SS et tout, enfin je veux dire c'est pas du tout, c'est évident, enfin on est traumatisé collectivement, et je pense encore plus quand on est juif, donc ça me paraît tout à fait logique de vouloir remettre en scène tu vois une scène avec un nazi, et si les SS ont été aussi fétichisés, c'est parce qu'ils nous terrifient. Tu vois ce que je veux dire ? C'est logique. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui vont te faire peur que tu vas érotiser.
C'est passionnant. Est-ce que je
c'est
peux
trop
pas...
long.
Non, je voudrais te retenir pendant des heures, mais je veux pas rater le moment du questionnaire de Proust.
Ah.
Donc, écrit par Proust, donc, la qualité que tu préfères chez un homme ?
Ben, sa capacité d'empathie.
Magnifique. La qualité que tu préfères chez une femme ?
Son intelligence.
Le principal trait de ton caractère ?
Les blagues.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Leur singularité. Le fait qu'ils soient autres et en même temps qu'on se retrouve.
Ton principal défaut ?
Je suis maniaque.
Mais non.
Si je suis toqué de ouf. J'ai une tasse spéciale que je veux boire que dans cette tasse, et si c'est un café, non. Mais j'ai vu que ma mère était comme ça. Là, je comprends qu'en vieillissant, je deviens marum. Donc, je vais beaucoup chez elle. En ce moment, je l'étudie. Ah, ça, c'est moi dans 20 ans. Celle qui a deux éponges. Tu sais, t'as une éponge pour la table, une éponge pour la vaisselle. Elle qui a juste sa tasse que personne ne doit toucher. En fait, je suis déjà comme ça. Donc, ça, c'est un peu cringe aussi. Un peu foireux. Bon, j'ai sûrement des défauts bien plus graves, mais en tout cas, au quotidien, c'est sûr.
Ton occupation préférée ?
Discuter avec des gens que j'aime bien.
Ton idée du bonheur ?
Ça, bah c'est ouais, d'être dans une relation, dans des relations épanouissantes en fait, que ce soit des relations riches et épanouissantes, et être un petit peu à l'abri aussi matériellement, de ne pas être toujours en train de flipper sur, sur la thune, et que le monde se porte mieux. Enfin, mon idée du bonheur, elle est à mon avis assez inatteignable. En tout cas, déjà, d'avoir des relations saines et joyeuses et multiples, c'est-à-dire d'ordre différent et où on est bien avec les autres, c'est vraiment ça le bonheur, je pense, ouais.
Quel serait ton plus grand malheur ?
Bah c'est pareil, c'est du coup c'est forcément le pendant, c'est de voir les gens que j'aime disparaître ou être malade, ou enfin je pense que ça c'est le plus angoissant, ouais.
Où aimerais-tu vivre ?
En fait, j'aime vraiment vivre à Paris. j'aime assez bien où je suis. Après, j'aimerais bien avoir un appart encore plus grand et flamboyant. Et aussi une maison de campagne, parce que je suis juste un gros bourge de merde. qui aimerait bien pouvoir aller faire du feu dans la cheminée, dans une maison qui lui appartient. Donc j'ai quand même des fantasmes très bourgeois, en termes d'habitation en tout cas. Et en fait, oui, avoir assez d'argent pour voyager quand j'ai envie, c'est vrai que c'est un peu chouette.
Ce que tu détestes par-dessus tout ?
Bah, la bêtise, je pense, vraiment crasse, quoi. Enfin, tu vois, qui va avec l'intolérance, qui va avec la violence. Et ouais, c'est ça, les gens qui n'écoutent pas, c'est très dur pour moi.
Comment aimerais-tu mourir ?
Le plus vite possible, au sens, tu vois, que ce soit pas, que ça traîne pas trop, quoi, si possible.
Pas d'agonie.
pas d'agonie. L'option sans agonie, si possible.
Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel ?
Bon, en ce moment, je suis un petit peu inquiet. Je trouve que, déjà, pour moi, je suis dans une phase où il y a plein de choses qui ne sont pas, dont j'attends professionnellement des confirmations. Ça met beaucoup d'insécurité. Et le monde m'inquiète énormément. L'état du monde m'inquiète énormément. Donc, j'avoue que je suis pas méga optimiste et pas méga serein. Mais bon, ça fait partie de la vie, c'est comme ça.
Merci, Océan.
Merci à toi.
Et voilà, c'était le brillant Océan, si poli, gentil, intelligent. J'adore qu'il ne me donne pas la même qualité pour un homme que pour une femme, au questionnaire de Proust. C'est aussi très touchant la fin de l'épisode, son inquiétude sur l'état du monde que je partage, ainsi que l'attente de réponses professionnelles que je partage aussi. J'ai un casting très important mercredi. J'ai du mal à ne pas me mettre la pression car ça pourrait vraiment être le rôle de ma vie. Si ça marche pas cette fois-ci, je me dis qu'il faut peut-être que j'arrête définitivement les castings. Je vous raconterai la suite. J'espère que vous n'avez pas remarqué un léger dans le son au début de l'épisode. On aurait pu parler encore pendant des heures avec Océan sur plein de sujets comme le porno car au final j'avais beaucoup appris avec l'un dans l'autre. Oh, j'ai pas coupé le petit moment de morve mais bon comme ça nous avait fait rire, voilà j'ai laissé. J'ai aussi laissé le moment où je suis un peu cringe en parlant de mon copain comme d'une lesbienne avec une bite. Mais Océan est top, enfin, c'est génial qu'il ait été pédagogue, il a une telle bienveillance, ça m'a fait progresser dans ma pensée. Et pour vous, bah, j'imagine que c'est intéressant, un podcast avec de la contradiction où l'host se remet en question quand elle est problématique. À un moment, je dis que j'ai beaucoup parlé du film How to Have Sex, mais c'est parce que j'en ai beaucoup parlé dans le podcast de Marie de Brouwer, Tchatcheuse. Marie, qui a fait ma première partie vendredi à La Cigale avec Mickaël. J'ai pas encore officiellement outé notre relation sur Instagram, mais vous pouvez voir sa tête sur la dernière photo du slide à La Cigale. Peut-être qu'un jour, je mettrai des photos un peu plus romantiques de nous deux. Peut-être après le 2 mars, la dernière date du spectacle en tournée à Genève et l'anniversaire de nos 1 an de relation. On s'est rencontrés le 1er mars 2023 et notre premier date, c'était le 9 mars 2023. J'essaie de garder courage pour le casting car je me dis que bah, c'était un rêve hein, de rencontrer quelqu'un comme Mickaël et bon, bah, j'y suis bien arrivée. C'était un rêve aussi de jouer à La Cigale et j'y suis arrivée. Adrienne et ma mère m'ont raconté qu'à l'after show, pendant que je dédicassais mon livre, après le spectacle donc, mon père avait demandé pourquoi on n'avait pas fait 2 cigales au lieu d'une. Adrienne était choquée, ma mère en colère et Mickaël a essayé de calmer le jeu. Adrienne me disait, je comprends pourquoi tu penses que tout ce que tu fais n'est jamais assez. Mickaël était là, non mais bon, c'est sa manière maladroite de dire bravo en visant plus haut. Et ma mère s'insurgeait, c'est une manière de ne pas dire bravo. C'est comme la blague juive des 2 cravates, a raconté ma mère. Une mère juive offre 2 cravates à son fils, il la remercie, vient lui rendre visite le lendemain en portant l'une des 2 cravates et sa mère lui dit « Tu l'aimes pas mon autre cravate ?» Voilà. En fait, c'est une manière de voir la vie par la négation. Et je sais pas si c'est lié, mais c'est peut-être ce qui explique mon manque de confiance, ma propension à culpabiliser. Ce matin, j'ai croisé sur le marché une voisine qui a pas aimé ma blague sur l'école Saint-Benoît à Bagnolet dans ma dernière chronique inter sur les QPV. Ça m'a mis mal à l'aise. Je me suis dit, ah zut, j'aurais dû changer le nom de l'école. Mon entourage doit se sentir exploité parfois par mes blagues. Idem, j'ai envoyé un texto professionnel hier et j'ai passé le week-end à morfondre d'avoir dérangé quelqu'un d'important un samedi. Pour le casting, je me suis fait la liste des comédiennes que je verrais mieux que moi dans le rôle. J'ai fait une fixette sur une amie comédienne qui a souvent eu des rôles que je désirais. J'ai dit à Mickaël, et si je l'appelais, et si je la suppliais que celui-ci elle me le laisse. Il était là, oh non, non, non. Il fait tout ce qu'il peut pour me persuader que je suis belle, que je suis forte, talentueuse. On est tombé ce midi sur une vidéo de Marina Rollman et je lui ai dit à quel point je la trouvais belle et mince avec ses magnifiques petits bras. Mickaël me disait simplement, moi je préfère toi. Mais tout cet amour suffira-t-il ? En attendant, il me reste le travail, faire du mieux que je peux et saisir la joie quand elle est là. J'ai surkiffé La Cigale, c'était un pied fou. J'y repense et j'ai le sourire. À un moment, à la fin du spectacle, toute la salle s'est mise à applaudir et à taper des pieds. Ça a fait un vrombrissement. J'en ai eu des frissons dans tout le corps. J'avais les larmes aux yeux, les mains sur la tête. Enfin, je me cachais comme une petite fille. Après avoir fait des blagues avec force pendant une heure et demie, je me laissais soudain aller à la reconnaissance, à la tendresse des gens qui apprécient mon travail et m'incitent à continuer à pas lâcher, à les voir et à les croire, à plus avoir peur de ne pas avoir ma place. Je vous embrasse.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.